Chez Best Drive, nous ne pouvons pas vous dire s'il fera beau sur la route des vacances. Mais quelles que soient les conditions, nous vous garantissons une route plus sûre. Avec un diagnostic sécurité gratuit, nous nous occupons de la révision de tous les véhicules, de votre clim, du changement de pneus. Rendez-vous sur bestdrive.fr.
Best Drive, votre confiance, notre exigence.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble pendant 2 heures pour parler évidemment des résultats des législatives et on sera aujourd'hui en compagnie de Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Bonjour Estelle et bonjour à tous.
Et merci de m'avoir remplacé toute la semaine dernière, Rémi.
Avec plaisir.
On est également avec le journaliste de Marianne, Perico Légas. Bonjour Perico.
Bonjour Estelle, l'heure est grave.
Oui, bah écoutez, on va en parler pendant 2 heures. Perico, mais enfin, vous aviez bien anticipé quand même ce qui s'est passé hier soir. C'était le cas également de Jérôme Lavrieux, notre désormais propriétaire de Gide. Bonjour Jérôme.
Bonjour Estelle.
Et puis Juliette Brien, journaliste à l'Incorrect. Bonjour Juliette.
Bonjour tout le monde.
Alors, aujourd'hui, c'est une spéciale législative. On attend bien sûr vos réactions au 32-16 et puis pour débattre avec nous. Et puis, on sera également avec deux de nos reporters en région parisienne et dans les Alpes-Maritimes pour entendre la réaction des Français aujourd'hui. On va parler dans un instant du succès du RN. Donc, croyez-vous à une majorité du RN, une majorité absolue à l'Assemblée? Dites-nous tout au 32-16 et sur l'appli RMC. À midi et demi, consigne de vote, retrait de candidat Front Républicain. Est-ce dérisoire ou nécessaire? On aura Anthony Morel qui nous parlera d'appli de rencontre, en fait, par affinité politique. Bah oui, ça marche très fort. Autant vous dire qu'il y a des parties où il n'y aura plus personne dans ces applis.
Oui.
Voilà. Et puis, il y aura évidemment le zapping à 13h30. Et puis, à 14h, on se demandera si ce raz-de-marée du RN, eh bien, c'est une revanche de la France d'en bas. Bonjour Rémi.
RMC Estelle Midi.
Un petit jingle.
Il y a eu une grande hésitation là.
Il y a une... Mais oui, je n'aimais pas le jeu. On joue à quoi?
Cette semaine, RMC vous envoie en Allemagne pour assister, attention, ça aurait été dommage de ne pas le dire,
au
quart de finale de l'Euro 2024. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC. Le voyage à Hambourg, le vol et l'hôtel, évidemment. Et la rencontre avec les équipes d'RMC avant le match. Alors, quel match? Vous aurez 2 places pour le quart de finale du vendredi 5 juillet, coup d'envoi 21h.
Ah oui.
Ce sera la France ou la Belgique, on espère que ce sera la France, face au Portugal ou à la Slovénie. Dès que vous entendez cette
Belgique,
alerte...
Slovénie, ça va être sympa.
Ouais. Dès que vous entendez cette alerte, là aussi, l'hésitation, voilà, elle est là. Vous avez 5 minutes quand vous l'entendez pour envoyer euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Cette alerte, elle peut tomber à tout moment. Vos places pour le quart de finale de l'Euro 2024 se gagnent uniquement sur RMC.
Allez, on va enchaîner tout de suite avec l'actualité du jour. Et c'est bien sûr le succès du RN au premier tour des législatives hier. 33,15% des voix. C'est au-dessus du score de Jordan Bardella aux européennes. Le nouveau Front Populaire est à 5 points derrière, tandis que le parti présidentiel est très largement distancé. Et alors qu'on pensait ce scénario fortement improbable, Rémi, le RN pourrait même obtenir la majorité absolue à l'Assemblée.
Alors, c'est pas encore acquis, mais d'après les premières estimations des instituts de sondage, et notamment de l'Institut ELAB, le RN peut tenter de briguer dimanche prochain entre 255 et 295 postes de députés. La fourchette haute, 295 députés donc, conférerait la majorité absolue qui est de 289 députés. Mais attention, il faut évidemment rester très prudent, car entre désistement au second tour pour faire barrage au RN, cas par cas, nini, rien n'est acquis, je l'ai dit, pour le Rassemblement National, d'où l'appel lancé hier soir par Marine Le Pen, affirmant que rien n'est gagné, justement. Elle a demandé aux électeurs de se mobiliser dimanche prochain pour donner cette fameuse majorité absolue à Jordan Bardella. Mais même sans elle, cette majorité absolue, certains veulent y croire. C'est le cas notamment de Sébastien Chenu, député RN du Nord, réélu dès le premier tour hier soir. Même en cas de majorité relative au second tour, il estime, si son parti parvient à trouver des soutiens dans la nouvelle Assemblée, être prêt à gouverner et estime qu'il peut y avoir des députés qui aujourd'hui, sans être dans notre alliance avec Éric Ciotti, pourraient quand même vouloir que l'Assemblée ne soit pas bloquée.
Alors, croyez-vous à une majorité absolue du RN à l'Assemblée nationale? Perico Légas.
J'ai cru que c'était possible. Arithmétiquement parlant, sur le plan électoral, regardons bien la répartition des voix. Jusqu'à ce que Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure et Gabriel Attal disent, comme Manuel Valls avait fait au régional en disant « nous allons nous retirer », du coup le RN n'avait eu aucune région, Là, s'il y a une application stricte de la consigne de Jean-Luc Mélenchon, d'Olivier Faure aussi, et de Gabriel Attal, on se retire pour le candidat qui est le mieux placé, l'option de la majorité absolue devient extrêmement difficile. Moi, je n'y crois plus. Attention, il peut y avoir un sursaut de l'électorat RN qui dit nous, on la veut.
Est-ce que la gauche a encore envie d'aller voter contre, je veux dire, au deuxième tour?
Tout ça,
là, ils ont avalé quand même quelques couleurs.
Tout ça va se jouer. Et il y a des désistements pour le candidat du Front Populaire qui n'auront pas d'effet parce que c'est un candidat de la France Insoumise, certainement. Et là, ça sera la personnalité du jour 1 où les gens de gauche, du centre-gauche ou de droite diront moi, je ne vais pas voter pour lui. Donc tout peut être distribué. Il peut y avoir un sursaut de gens qui ne croyaient pas hier à la vague RN, qui vont dire là, dimanche prochain, on y va parce qu'on ne peut pas laisser passer. Tout ça, c'est de l'extrapolation que je suis en train de faire. On n'est sûr de rien. Là, à l'heure qu'il est ce soir, au vu de cette configuration, je pense que ça va être... Je ne écarte pas cette possibilité. Elle devient moins probable qu'elle ne l'était hier soir à 20h.
Est-ce qu'il peut y avoir un recul des électeurs RN, finalement, au moment de mettre son bulletin dans l'urne pour le deuxième tour, Jérôme Lavrieux? Parce qu'on sait que le premier tour, c'est aussi un tour de rejet, on va dire, un tour de voilà, j'ai envie de mettre mon mécontentement dans l'urne, et puis tout d'un coup, quand le deuxième tour arrive, on se dit, oh là là, mon mécontentement, il va devenir crédible et tangible. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une réaction de finalement, oh là là, je vais peut-être changer mon vote?
Estelle, vous avez raison, c'est ce qui se fait habituellement.
Ben oui.
Sauf qu'on n'est pas dans le habituellement en ce moment. Tout ce qui arrive est inédit. Tout ce qui arrive est inédit. Moi, je ne crois pas du tout qu'il y aurait un sursaut. Enfin, ça fait des semaines qu'on dit que la France va sursauter. Elle n'arrête pas de sursauter, la France.
Sauf que là, on y est, Jérôme. On y est.
Oui, oui, on y est, mais on y était aussi hier. Et puis, on y était aussi aux Européennes. À 8 jours des Européennes, on nous a dit qu'il va y avoir un sursaut. Et les gens ont envie de s'exprimer. Moi, je suis un démocrate. Je respecte le choix qui est en train d'être fait. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un effet de vague qu'on ne peut pas maîtriser et que le Rassemblement national, avec plus ou moins d'alliés, aura la majorité absolue. Et d'ailleurs, j'attire l'attention, je ne suis pas membre du Front National, hein. Tout dans mon passé montre que je n'ai jamais été sur cette ligne-là. Je fais partie de ceux qui pensent que le pire pour notre pays, c'est qu'il n'y ait personne pour le diriger.
C'est ça.
Et que si on a une assemblée ingouvernable, qu'il n'y a pas de majorité. Je rappelle que la dissolution a été faite par des génies pour résoudre un problème d'absence de majorité.
Oui. C'était bien joué.
Et au bout de cela, si on se retrouve sans majorité,
du tout.
Je rappelle que la Constitution prévoit qu'il ne peut pas y avoir de nouvelle dissolution avant 365 jours.
Voilà.
D'accord ? Et même s'il y avait une démission du président de la République et qu'un nouveau président était élu, il devrait se fader, au moins pendant quelques mois, la majorité, enfin, l'absence de majorité.
Après, il peut y avoir des accointances même sans majorité absolue. Tu le sais bien.
Ouf.
Tu peux avoir des LR qui se rallient au dernier moment.
Sauf que ces trois blocs se détestent.
On a vu des détestations. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, des détestations qui vont aboutir à des alliances.
Je ne crois pas qu'ils aient même besoin de faire ça. Je pense que la vague est très forte. Elle va monter très haut. Elle refluera sans doute un temps après.
Oui, bah comme d'hab.
Les gens disent, de toute façon, eux, on les a jamais essayés, allons-y. Je crois que les consignes qui sont en train d'être données par des génies, de dire faut retirer notre candidat quand il est troisième, parce que c'est pas bon du tout, parce que les gens n'oublieront pas cela, et que ça va renforcer. Il y a une telle angoisse d'avoir Mélenchon et la LFI au pouvoir, que quelqu'un de modéré de droite, il fera tout pour pas avoir Mélenchon.
Probable.
Juliette Briens, est-ce que vous imaginiez le RN aussi fort qu'hier soir, en fait? Est-ce que vous imaginiez que le score du RN pouvait être supérieur à celui des Européennes?
Alors oui, hier soir, je pense que moi, je faisais totalement confiance aux sondages qui, en ce moment, font un excellent boulot, il faut le dire. Hier soir, à 20h, le RN se retrouvait dans le meilleur scénario possible. Ils étaient très hauts, la majorité présidentielle plutôt très basse, dans les choux, et un nouveau Front Populaire assez haut aussi, mais mal réparti sur la France, qui allait donner lieu à de nombreuses triangulaires, qui allait disperser les voix du fameux barrage, et possiblement leur donner une majorité absolue éclatante. Mais qui pouvait, à ce moment-là, prévoir une coalition partant de Philippe Poutou jusqu'à Gabriel Attal? Franchement, c'était très peu prévisible, et c'est vous dire, en fait, le manque de colonne vertébrale de ces gens-là. Une seule chose est sûre, en tout cas, et ça, je pense qu'il faut quand même bien s'en rendre compte à un moment donné, c'est que vous vous rendez compte que Les théâtreux, les artistes, les chanteurs, les acteurs, les sportifs, les youtubeurs, les influenceurs, les francs-maçons, les journalistes. Il y a même des collectifs de fans de Star Wars et de cartes Magic qui ont appelé à voter contre le RN. Enfin, il manquerait peut-être, je sais pas, les amateurs
mais on sait que ça, c'est pas toujours productif. Voilà.
Mais malgré ça, non, mais vous rendez compte, malgré ça.
T'as oublié Éric Zemmour entier, dans ta liste.
Voilà, ce système entier, le RN est quand même assuré d'avoir un minimum de 250 sièges à l'Assemblée.
On n'est jamais assuré de rien.
Mais non, mais quand est-ce que, en fait, les autres partis commenceront à peut-être se soucier des angoisses de la masse et répondre à certaines questions des Français plutôt que de continuer sur cette injonction à faire barrage à l'extrême droite qui ne fonctionne plus et au contraire qui alimente encore plus une colère et une envie de désobéissance des Français. Je ne comprends pas cette stratégie.
C'est sûr que la phrase d'Olivier Faure hier sur les différents médias où il s'est trouvé en disant « ils n'ont jamais gouverné depuis la guerre », sous-entendu le régime de Vichy était leur antécédent. Le régime de Vichy, il y avait au régime de Vichy Laval qui était un ancien socialiste, président du Conseil, Déa, ancien socialiste, Doriot, ancien communiste, et René Bousquet qui a déporté les enfants juifs était radical socialiste. Donc, tout le monde a partagé. Donc, qu'on arrête, parce que c'est ce genre de phrase qui fait qu'ils vont avoir la majorité absolue. Donc voilà, arrêtez de jeter des anathèmes pour des gens qui n'ont même pas connu. Même leurs parents n'y étaient pas.
Personne n'était né.
Alors, vous êtes très nombreux à nous appeler au 3216 pour réagir, bien sûr, à ces résultats des législatives. On a David qui nous appelle d'Auxerre et qui est transporteur routier. Bonjour David.
Bonjour, bonjour à tout le monde.
Et merci beaucoup d'être avec nous. David, vous avez voté hier ?
Oui.
Et David, est-ce que vous pensez aujourd'hui que le RN peut avoir une majorité absolue à l'Assemblée ? Est-ce que ce serait selon vous souhaitable ?
Alors moi je pense qu'ils peuvent l'avoir, et puis pour être franc, j'ai voté pour eux.
D'accord.
Mais par contre, moi je vois ça, catastrophique qu'ils arrivent avec 260 sièges. Comme disait Monsieur Lavrieux, de toute façon il y aura des alliances avec certains LR qui ne pourront pas se planquer parce que sur les sujets régaliens ils sont quand même assez proches.
Oui, enfin faudra voir combien les LR ont de sièges. Oui, ça aussi malheureusement, s'ils ont 10 sièges, ça ne suffira pas, peut-être.
Oui, c'est sûr, mais bon, je pense qu'ils auront un peu plus. Je pense que s'ils ont 50, ça sera pas mal. Mais et en plus, tout ce qui se passe en ce moment, là, les alliances, les petites tambouilles, je pense que ça gonfle énormément de gens. Et je pense que ça va faire complètement l'inverse, en fait. Parce que beaucoup de gens qui sont à Renaissance vont pas accepter. D'ailleurs, il y a déjà certains candidats qui m'ont dit qu'ils refuseraient de se désister. Ouais. Donc, il faut y prendre aussi.
Ça, ce sera au cas par cas. Et vous allez en avoir une petite dizaine, effectivement, qui vont refuser de se désister. Vous allez voter au deuxième tour, David, aussi ?
Ah oui. Je vais confirmer le premier tour.
Et le RN est arrivé en tête dans votre circonscription ?
Oui, assez largement d'ailleurs. D'ailleurs, il faudra aussi essayer de faire une grande différence entre le vote des grandes villes et puis la ruralité, parce que moi j'habite en ruralité et je peux vous dire qu'on ne vote pas du tout comme à la ville.
Mais tout à fait. Et on va en parler à 13h justement, en se demandant si ce vote c'était la revanche de la France d'en bas, on va dire de la France rurale en tout cas.
On nous oublie un peu, parce que quand on parle beaucoup des cités, des jeunes en cité, on pense jamais à nos jeunes, dans les milieux ruraux. Nous on n'a rien, on n'a pas de transport, on n'a rien, on n'a pas de ciné, on n'a que dalle, alors que c'est vrai que il y a certains problèmes dans les cités, mais je veux dire, comparé à nos jeunes à nous, les parents sont obligés de se démerder pour les emmener au sport, pour les emmener par-ci, par-là, alors que nous, on est tout le temps obligés de prendre le véhicule et tout. Mais on est tout le temps oubliés, en fait.
Et vous avez raison, on n'en parle jamais. Vous avez raison. Mais vous avez raison, David, et c'est vrai que on parle très, très rarement, effectivement, de cette France rurale qui est souvent oubliée par les médias. Et effectivement, c'est une France rurale qui a beaucoup voté RN. Merci beaucoup, en tout cas, David, de nous avoir parlé de votre quotidien dans Estelle Midi, on a des réactions également sur l'appli RMC, Rémi.
Oui, nombreuses réactions, et non seulement cette réaction de Jules qui nous dit « Je pense que tout candidat inscrit au premier tour est qualifié pour le second par respect pour les électeurs qui ont voté pour lui, devrait continuer jusqu'au bout. » Pas de désistement, absolument.
Ouais, ça, on en parlera effectivement.
Il y a quand même une notion un peu de déni de démocratie dans le sens où on dit en fait à ces 11 millions de Français mais vous êtes malade quoi, vous êtes malade, vous êtes d'extrême droite et on va tout faire pour vous guérir de cette maladie qu'est votre vote, donc on va se désister pour aller flinguer votre vote par derrière. Et je trouve que le principe même en fait de ce barrage par désistement est assez nauséabond pour la démocratie, en fait c'est ce que je pense.
Alors notre invité sur ce débat c'est Bernard Sananès, il est président de l'Institut de Sondage Elabe et vous avez salué justement le travail des instituts de sondage. Juliette, il y a un instant. Bonjour Bernard.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Et c'est vrai que voilà, vous ne vous êtes pas trompé en tout cas sur ces sondages, Bernard Sananès. Mais c'est vrai que on vous a vu plusieurs fois dans Estelle Midi ces dernières semaines. Et c'est vrai qu'on croyait quand même pas vraiment à une majorité absolue du RN à l'Assemblée.
Écoutez, nous avions dans les derniers sondages des hypothèses, il y a un peu d'écho, je ne sais pas pourquoi.
Ouais.
Nous avions une hypothèse, effectivement, dans les derniers sondages, d'une majorité relative solide, comme nous l'avions qualifiée. Et c'est effectivement les projections que nous avons confirmées hier soir. Pourquoi disons-nous majorité relative solide? Parce que, effectivement, notre fourchette 255 à 295 sièges, vous le voyez, la plupart des hypothèses tournent légèrement en dessous pour le Rassemblement national et ses alliés. Donc ça, c'est un premier point. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? D'abord, il va y avoir ces désistements. Ces désistements, j'entendais votre débat, on peut être contre, on peut être pour, mais mécaniquement, ils vont affaiblir un peu le Rassemblement national. Je dis mécaniquement et un peu parce que, effectivement, dans une dernière enquête que nous avons publiée la semaine dernière, trois quarts des Français que nous avions interrogés disaient qu'ils ne se fieraient pas aux consignes de vote. Mais, je nuance, dans l'électorat de gauche, un électeur sur deux disait qu'il les suivrait, ces consignes. Donc la gauche est plus, entre guillemets, disciplinée sur ces sujets-là. Ça, c'est le côté qui pourrait pénaliser le RN. Mais à l'inverse, et j'entendais votre débat là-dessus, et je ne suis pas loin de partager une partie de ce qui a été dit, c'est vrai que l'appel au désistement, l'appel au retrait fait un peu tambouille politique, et que vous pouvez avoir un effet de vote anti-système qui vienne donner un second souffle à la vague RN, ce n'est pas impossible non plus.
On a vu une très forte participation à ces élections, on va dire qu'en tout cas c'est le point très positif de ces législatives. Est-ce qu'au second tour on peut s'attendre à beaucoup moins de participation, notamment par des électeurs qui n'ont absolument pas envie d'aller faire barrage au RN et qui disent moi de toute façon voilà mon choix ne sera pas gagnant, donc tant pis, je vais pas voter et puis je pars en vacances, parce que c'est le début des vacances scolaires également.
Oui, ça arrive souvent, à quelques exceptions près, que la participation au second tour recule ou soit légèrement identique, sensiblement identique, parce que effectivement, vous l'avez dit, il y a des candidats qui, quand leur candidat est éliminé, ne veulent pas choisir. Là, je pense que l'enjeu est tel que certains électeurs voudront aller choisir. Est-ce qu'ils suivront les consignes de vote? On a pris l'exemple depuis ce matin, hier soir dans les médias, des électeurs de gauche face au retrait de la candidate de gauche face à Madame Borne. Ça sera un test, hein, je ne suis pas capable de dire ce qui va se passer. Est-ce que ces électeurs de gauche vont aller sauver Madame Borne qui a fait passer la réforme des retraites? Oui. Ou est-ce qu'ils vont considérer que le Front républicain est plus important que la réforme des retraites? Ce sera un test, ne nous prononçons pas avant. Deuxième exemple, des électeurs Renaissance. Quand ils se retrouvent dans un duel RN contre Nouveau Front Populaire. La semaine dernière, dans les enquêtes, ils nous disaient pour un sur deux qu'ils n'iraient pas voter. Est-ce qu'ils vont maintenir ce score-là ou est-ce que ce score va évoluer? Voilà, c'est toute la dynamique du second tour qui va se jouer un peu sur la peur. Est-ce que j'ai plus peur du RN ou est-ce que j'ai plus peur du Nouveau Front Populaire? Pour beaucoup d'électeurs, ça va être un choix de la défiance, comme on dit au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine.
Ce que vous dites, c'est créer un effet, en fait, Bernard Sananès.
Ah oui, je suis extrêmement prudent, d'abord parce que la situation, nous ne l'avons jamais connue, donc je ne veux pas modéliser quelque chose qui se serait déjà produit. Et deuxièmement, il peut y avoir effectivement des vents contraires, tourbillonnants, comme on dit en météorologie. Et enfin, il peut y avoir aussi des réserves de voix. Est-ce que le Rassemblement national semble avoir fait le plein? Est-ce que c'est le cas pour les candidats de gauche? Est-ce que la jeunesse va plus se mobiliser pour cette idée du barrage? Est-ce que des candidats, des électeurs de la majorité vont considérer qu'il faut aller voler au secours de ce Front républicain? C'est tout ça qui fait ce second tour inédit et incertain.
Bah merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Bernard. On vous retrouvera certainement cette semaine dans Estelle Midi. On va prendre en ligne Karim qui nous appelle de Lille. On a dit que la participation avait été très forte hier, mais Karim, vous êtes chauffeur de bus et vous êtes abstentionniste. Vous n'êtes pas allé voter hier.
C'est ça, ouais. En fait, je pensais qu'elle allait avoir un combat entre Renaissance et le Rassemblement National au deuxième tour. Ouais. Et je comptais peut-être aller voter. Mais là, non, je ne voterai pas au second tour.
Mais pourquoi, Karim? Il n'y a rien qui vous plaît? L'idée du barrage ne vous plaît pas?
Les extrêmes, ça me déplaît, en fait.
Oui, mais alors après, il y a quand même... Alors, je ne sais pas ce que ça donne dans votre circonscription, mais vous avez quand même des candidats Renaissance, des candidats LR, des candidats socialistes, écolos. Les
candidats Renaissance, ils ne passent pas au deuxième, donc forcément, je n'irai pas voter. Ça se passe entre LFI et le RN. Voilà. Et perso, moi, les extrêmes, ça m'intéresse pas trop, quoi. Donc,
vous êtes comme Bruno Le Maire, quoi. C'est Nini, quoi.
Bah, c'est pas une question de Nini, parce que moi, j'ai rien à gagner dans ces élections. C'est simplement, je suis contre les extrêmes, quoi.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moins pire des deux? Est-ce qu'il n'y a pas un moins pire des deux à un moment donné?
Comment est-ce que
entre la peste et le choléra, vous connaissez la formule, entre la peste et le choléra, qu'est-ce qu'on choisit?
Parce que moi, écoutez, je suis, mes parents sont d'origine algérienne.
Oui.
Ce que présente le Rassemblement National, je suis désolé, mais c'est de la haine. Et pareil pour l'extrême gauche. C'est des groupes de haine, en fait. Et moi, perso, j'ai pas de problème avec mon voisin qui soit de n'importe quelle couleur. Donc forcément, à partir du moment où j'ai un pouvoir politique qui est là en train de mettre des catégoriser les citoyens français, même ceux qui sont étrangers, je trouve ça un peu déplacé. Donc forcément.
Ouais, mais alors pourquoi vous votez pas de l'autre côté?
Mais je voterai pas pour l'autre côté parce qu'ils sont dans une autre politique aussi qui me dérange parce que j'ai pas envie que mon voisin soit étranger pour moi. C'est-à-dire que là, même sur l'extrême gauche, ils ont des propos ou des positionnements qui me concernent pas. Je veux dire, moi, je suis français, d'origine algérienne, et je fais pas de différence avec mon voisin. C'est tout, point barre. Donc, je pensais que Renaissance, j'ai voté pour Macron présidentiel, je pensais qu'il allait faire quelque chose. C'était une dynamique, on était tous enthousiastes à l'idée de le suivre, et finalement, on se rend compte que le mec, à partir de son deuxième mandat, il baisse les bras et puis il laisse tomber tous les Français, quoi. C'est tout.
Mais vous faites partie des très très nombreux déçus du macronisme, Karim. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs qui, comme vous, n'iront pas choisir dimanche prochain.
Malheureusement, malheureusement, si on avait une autre possibilité de...
Ben oui.
Si on avait un autre choix. Mais maintenant, on va les regarder faire. Maintenant, ils ont, depuis des années, ils nous disent que s'ils ont les clés, ils vont redresser la France. Ben, voyons ce qu'ils vont faire. Et puis, au moins, tous ces gens qui votent pour ce parti-là, enfin, pour la plupart, j'espère qu'ils ne sont pas racistes, mais au moins, ils ouvriront les yeux et verront que, finalement, le Rassemblement National, c'est juste, voilà, quoi.
Mais
ils ont juste un discours.
Mais c'était peut-être le pari d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, de dire, regardez ce qui arrive, et peut-être de les discréditer pour les prochaines présidentielles de 2027 s'ils n'arrivent pas à gouverner d'ici là. Ça faisait peut-être partie de l'idée de base d'Emmanuel Macron.
C'était seulement l'idée de base, mais là, il fait alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour essayer d'éviter cette possibilité.
Ça, c'était pas son idée de base, je pense.
On se dit que finalement, c'est pas vraiment dans ses plans.
Merci Karim, en tout cas, d'avoir été avec nous. Vous voulez rajouter un truc?
Oui, non, mais la position que Karim défend, c'est la position qu'a défendu Édouard Philippe hier quand il a pris la parole. Il dit, quand on n'a plus le choix, quand on n'a que le choix entre l'extrême gauche et l'extrême droite, je ne choisis pas. C'est ce qui est la position que vient de Karim. Voilà. Moi, je pense qu'une élection, c'est pour offrir un choix aux gens. Et ce seuil de 12,5 des inscrits, c'est pour avoir des triangulaires ou des quadrangulaires, si nécessaire.
Et c'est sûr que si tu as moins de choix quand il n'y a pas de triangulaire, évidemment. On termine avec des messages, Rémi, sur l'appli RMC.
Allez, ce message qui est de remerciement, tiens, pour une fois, c'est pas si souvent. Mathieu nous dit bravo à Estelle Midi de souligner les vrais sujets de ce premier tour. Caricaturer le RN ne fait que renforcer le sentiment d'être méprisé par une élite et des donneurs de leçons chez les électeurs des territoires. On en parlera justement
c'est
de la France d'en bas, et ce n'est absolument pas péjoratif.
Non, pas du tout.
C'est aujourd'hui devenu coutumier de parler de cette France qu'on n'entend pas.
C'est la France qui se lève tôt, de parler de Nicolas Sarkozy.
On en parlera
à 13h.
C'est le Premier ministre Raffarin qui a parlé de la France.
Exactement, et la France qui se lève tôt, c'était effectivement Nicolas Sarkozy, mais c'est vrai qu'il y a une grande dichotomie entre les résultats des grandes villes et ceux des villes moyennes et de la France rurale. Le sondage, on vous a posé la question, croyez-vous à une majorité absolue pour le RN à l'Assemblée, Rémi?
C'est le oui qui l'emporte assez majoritairement. Oui, pour 66% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Pas de marge d'erreur. Non. Donc, dans un instant, on continuera à parler des législatives. On parlera, vous savez, des retraits de candidats, des consignes de vote. Est-ce que tout ça, c'est nécessaire ou inutile? Est-ce que ça peut vous pousser à aller voter ou au contraire, à rester chez vous? Dites-nous tout au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est minuit 33, vous êtes sur RMC Story dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Perico Légas, Jérôme Lavrieux et Juliette Briens. On parle évidemment des législatives avec le RN bien placé pour obtenir une large majorité, voire une majorité absolue à l'Assemblée. Et pour éviter cela, eh bien, dès hier soir, la gauche et les macronistes ont donné des consignes de vote ou ont annoncé des retraits de candidats pour faire barrage au RN. Des consignes, Rémi, plus ou moins claires, quoi.
Oui, alors à gauche, c'est assez clair, que c'est ce soit Raphaël Glucksmann ou Olivier Faure pour le PS, que ce soit pour Jean-Luc Mélenchon pour LFI ou encore pour Marine Tondelier pour les écologistes, l'appel, le message en tout cas est sans ambiguïté. Hein. C'est tout sauf le RN, un barrage républicain, quitte à voter pour un candidat, même de la majorité présidentielle. Du côté des LR, qui n'ont pas rejoint Éric Ciotti, je parle de des autres LR, pas ceux qui ont rallié le RN. C'est aussi très clair, il n'y aura aucune consigne de vote pour le second tour. Bon, voilà, au moins c'est clair. Là où ça se complique, c'est en ce qui concerne la majorité présidentielle. On va pas se le cacher. Édouard Philippe, dès hier soir, a exhorté les électeurs à respecter le ni-ni. Ni RN, ni LFI dans le second tour. Même chose pour Bruno Le Maire, qui ce matin, en cas de second tour, lorsque nos candidats ne sont plus présents, appelle à voter face au RN pour un candidat de ce qu'il appelle le camp social-démocrate, c'est-à-dire un représentant du Parti Socialiste, du Parti Communiste ou des Verts. Donc il exclut LFI. Emmanuel Macron ne disait pas autre chose avant le premier tour, souvenons-nous, il disait ni RN, ni LFI. Mais hier soir, il a appelé avant tout à faire barrage au RN, et on en parlait tout à l'heure dans les infos sur RMC. Pareil que jusqu'à 3h du matin cette nuit, on a scruté avec le chef de l'État et autour de lui ses conseillers, circonscription par circonscription, ce qu'il faudrait faire, selon eux, pour le second tour.
Alors, ces consignes de vote, ces retraits de candidats sont-ils inutiles ou nécessaires? Je vais commencer avec vous, Jérôme Lavrieux.
Ils sont nécessaires, mais totalement inutiles.
Ah, d'accord.
Le principe d'un parti politique, c'est de donner son avis, de donner une orientation politique. Et quand il y a un choix à faire, c'est le domaine du parti politique de dire à peu près pour qui eux voudraient voter. Mais quand tu le fais, il ne faut pas être naïf, c'est totalement inutile. Les Français, c'est un des peuples les plus, pas politisés, mais politiques du monde. Et nos éditeurs s'en rappellent peut-être, quand on regardait tous les soirs les guignols de l'info, pour comprendre le moindre sous-entendu, fallait avoir Bac plus 12 en politique. Et on avait tous Bac plus 12 en politique. Les gens comprennent les histoires entre Chirac, Balladur, les coups de couteau, machin. Oui, on connaissait ça par cœur. J'ai encore la cassette vidéo. Je suis désolé, je fais très vieux en disant ça.
Et les plus jeunes ne savent pas de quoi vous parlez.
Après 95, j'ai niqué couille molle. C'était le titre de la cassette vidéo. C'est pas un gros mot que je dis, c'était comme ça. Donc les Français sont très politiques. Les prenons pas pour des abrutis. Ils savent ce qu'ils vont faire et ils savent les conséquences de ce qu'ils vont faire. Et donc je pense que un parti politique, il est dans son rôle. J'ai pas lui reprocher de donner une consigne. L'absence de consigne est une consigne. Quand on dit nini, c'est aussi c'est pas une consigne, c'est une absence de consigne, mais c'est une consigne quand même. C'est son rôle. Mais après, les gens vont faire ce qu'ils veulent selon leurs intérêts locaux, selon leur vision de la société. Ils peuvent aussi se déplacer et mettre un bulletin blanc dans l'urne. Si on les compte à part maintenant.
Ils ne sont pas obligés de voter comme on leur dit de voter. Est-ce que ça c'est devenu, pour vous, Juliette Briens, finalement totalement contre-productif et impopulaire? Moi, je me dis aujourd'hui, vu la détestation anti-Macron, si Emmanuel Macron dit il faut voter ça, je me demande s'il n'y a pas des gens qui vont aller voter l'inverse juste parce qu'ils ne peuvent plus le supporter, quoi.
C'est exactement ça. Pour revenir un peu sur ce que dit Jérôme, là, en fait, cette colère qu'on entend en France, c'est typiquement la colère du Gaulois réfractaire, dont on parle souvent, et les chiffres le prouvent. Donc ça, c'est les chiffres d'Elab, justement, si on peut revenir dessus. Les derniers chiffres d'Elab, ils disent que 74% des Français n'ont pas l'intention de suivre les consignes de vote. C'est 80% des électeurs RN, 70% des électeurs Ensemble, et à moindre frais, 53% quand même des électeurs du Nouveau Front Populaire. Donc, effectivement, je pense que ça va être totalement contre-productif, surtout un appel venant de Emmanuel Macron, qui est totalement repoussoir aujourd'hui. Et puis, hier, avec ce qu'on a vu, on a bien compris que le Nouveau Front Populaire, c'était Jean-Luc Mélenchon qui menait la danse, et ça n'est jamais apparu aussi clair hier soir, quand il a apparu le premier, j'imagine, sans avoir consulté personne, pour appeler au désistement de candidats qui sont sûrement pas les siens, puisque lui, ses candidats et les filles sont plutôt très
bien
placés.
Après, lui, il a été très clair.
Lui, ses candidats et les filles sont très bien placés dans ses circonscriptions et qu'il va devoir sacrifier du PS et du Europe Écologie Les Verts. Pas folle la guêpe.
Lui, il peut être clair. Voilà. Il a les moyens d'être clair. Il va niquer les autres.
Exactement.
Donc il peut être clair.
Et Emmanuel Macron, lui, apparaît comme le premier à lui tendre la main, à tendre la main au Nouveau Front Populaire de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que tout ça va être une catastrophe.
Est-ce que ça vous gêne, vous qui avez des personnalités politiques de premier plan, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Perico Légas, qui mettent LFI et le RN sur le même plan?
Non, pas du tout.
D'accord.
Ils sont dans leur logique. Attention, je ne prends pas position.
Non, bien sûr.
Ils sont j'allais dire, ils sont cohérents. Vu ce qui a été dit avant et vu l'orientation qu'a pris la France Insoumise sous l'impulsion de Mélenchon. C'est la France Insoumise sous Mélenchon qui est devenu effectivement assez incompatible avec les valeurs républicaines. Non, il y a surtout un élément majeur qui est arrivé, qui est le séisme, il est là. Et quand je dis ça, je prétends que c'est une analyse objective, ce n'est pas une prise de position. Il n'y a plus d'extrême droite en France. Dès lors que vous avez 11 millions de citoyens français qui ont voté pour ce parti, je refuse de croire qu'il y a 11 millions de citoyennes et de citoyens français qui ont voté sciemment pour un parti d'extrême droite, descendant du pétinisme, fondé par des nazis. Ça, c'est terminé. Ça a pu l'être.
Peut-être que les électeurs ne sont pas d'extrême droite, mais le parti est d'extrême droite.
Non, il l'est plus de fait. Alors, il y a au Rassemblement National des gens d'extrême droite. Mmh. Il y a certainement des gens de sensibilité fascisante. On a vu les dérapages. Ils sont immédiatement sanctionnés. Jean-Marie Le Pen a été viré manu militari par sa fille. Donc, le travail, il a été fait. Que tout soit terminé, ce n'est pas vrai. Et il y a encore aujourd'hui au Rassemblement National des gens qui sont limites avec... voilà. Mais en gros, c'est un parti... Alors, on n'a pas le droit de dire de l'arc républicain. C'est un parti qui est dans le paysage de la démocratie française. D'accord. Et hier soir, les citoyens de la République française ont définitivement cassé cet anathème de extrême droite qui fait qu'aujourd'hui, quand on dit barrage, barrage au fascisme, barrage au racisme, ce n'est plus valable, ça ne marchera pas. Et ceux qui se sont obstinés à hier soir s'enferrer, s'enfermer, s'obstiner dans cette impasse, vont le payer cher électoralement, parce que là, ils insultent carrément les gens qui ont voté pour le RNR. Ils leur disent, vous n'êtes pas de bons Français, et vous êtes, j'ai vu des tweets passer, mais absolument, gros porcs, salauds, raclures, ce sont des gens marginaux, mais je sais qu'il y a des hommes politiques qui pensent que le peuple français, comme au lendemain de le traité constitutionnel, fallait voir les éditos de gauche, en 2005, le 6 mai, ce peuple raciste, xénophobe, qui avait dit non à la Constitution européenne, et bien là, aujourd'hui, la réponse est cinglante. Pour les 71 millions des Français, le Rassemblement National est un parti démocratique comme les autres, contestable pour ses opinions, à qui on peut tout reprocher, mais pas d'être un parti fasciste.
Oui, donc les consignes de vote, pour toi, elles sont contre-productives.
Donc, du coup, les consignes de vote ne tiennent plus la route.
Après, les retraits de candidats, ça peut quand même servir. Là, pour le coup,
mais la maladie n'étant pas la maladie en question, c'est ni peste ni choléra, c'est une grippe.
D'accord.
Sauf qu'Estelle a raison. Parce que les consignes de vote servent à rien, mais le retrait d'un candidat, c'est une consigne imposée, puisque après tu n'as plus le choix. Et d'ailleurs, ce qui était très intéressant de voir hier, c'était la chorégraphie. On est rentré dans la campagne présidentielle. Érico, si tu permets, les trois personnes qui ont pris la parole en premier, c'est important une chorégraphie de soir électorale.
Jean-Luc Mélenchon en un,
Édouard Philippe en deux,
et
Marine Le Pen en trois.
Ah oui, c'est vrai qu'elle
Marine Le Pen en trois. Les trois qui vont mener la danse pour la campagne des présidentielles qui a commencé officiellement hier soir et qui a acté la fin du macronisme. Le soir des européennes, celui qui a tenu...
On sentait venir quand même quelques semaines. Hein.
Il y a 15 jours, 3 semaines, c'était Macron qui prenait la parole du haut de son piédestal. Là, aux oubliettes, il est en train de regarder jusqu'à 3h du matin tel circo. Je ne suis pas sûr que ce soit bien son job, d'ailleurs.
Les prises de parole 3 fois par semaine jusqu'au deuxième tour, à mon avis, la semaine, je ne suis pas sûr qu'il y ait 3 prises de parole.
Est-ce qu'Edouard Philippe pourra se démacroniser? Ça a été fait hier.
Il a énormément parlé pendant le premier tour et ça a été catastrophique, alors que ses équipes le suppliaient de ne pas le faire.
Alors, on est en ligne avec Jean-Marc. Jean-Marc, qui nous appelle de Gioux, dans la Creuse, et qui est retraité. Bonjour Jean-Marc.
Oui, bonjour.
Jean-Marc, est-ce que vous allez suivre les consignes de vote du parti pour lequel vous avez voté, là, hier ?
Écoutez, de toute façon, je suis surtout mon idée.
D'accord.
C'est-à-dire que je vote depuis plusieurs années pour une tendance nouvelle, voilà, si ça peut vous inspirer. Aujourd'hui déjà, je voudrais vous dire du fond de mon cœur que une chose me gêne beaucoup, c'est que un vote, c'est l'expression d'un peuple. Hein.
Le suffrage universel. Et c'est le suffrage universel.
Quand on s'ouvre comme ça au vote, comme on l'a fait, hier, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont été brassés. Une fois de plus, le premier résultat dit il faut faire barrage, il faut faire obstruction, il faut trouver la solution et tout. En fait, je pense que dans l'idée qu'on veut donner d'un vote, il faut que chaque parti propose un programme.
Eh oui.
Pas une direction. On s'en fout. Si on donne une direction au peuple, c'est-à-dire qu'on l'a servi.
D'accord.
Et moi, je suis contre ça. Franchement.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise pour qui voter, quoi, en fait. Voilà.
Pardon ?
Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise pour qui voter. En fait, vous savez très bien, vous êtes un grand garçon et vous savez quoi faire. Ok, mais je comprends.
Écoutez, j'ai 69 ans, je vais vous dire franchement une chose. J'ai vécu ma vie comme je l'ai vécu. Je suis maintenant retraité. J'ai refusé tout un tas de choses dans ma vie, c'est-à-dire le chômage, la fainéantise, la fuite, le truc et tout. J'ai voté depuis l'âge que je pouvais voter.
D'accord.
Aujourd'hui, par exemple, vendredi, je suis allé au marché.
D'accord.
Ça a failli être une bataille parce que j'ai refusé un papier en disant, écoutez, c'est pas la peine.
D'accord.
Je l'ai dit.
Oui.
Ça a été hargneux. Alors, aujourd'hui, c'est clair.
D'accord. Jean-Marc, très rapidement.
Demos veut dire le peuple.
Oui, mais Jean-Marc, très rapidement, pour conclure, on est hyper en retard. Jean-Marc, vous, ce que vous nous dites, on est d'accord, c'est qu'en fait, les consignes de vote, vous en fichez, vous votez en votre âme et conscience, et surtout, pour vous, c'est contre-productif. Merci, Jean-Marc, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je suis désolée, Jean-Marc, on est très, très, très retard. Je voudrais qu'on voit rapidement, Rémi, le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
On vous a posé la question, les consignes de vote, c'est utile, enfin, inutile ou nécessaire? Bah, inutile pour 88% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Je crois qu'il faut arrêter avec les consignes, manifestement.
C'est pas la peine de se creuser la tête.
Passe plus. Avant de retrouver Anthony Morel qui nous parlera des applis de rencontre par affinité politique, on va tout de suite retrouver notre reporter Johanna Chabas en région parisienne. Elle est en compagnie de Christiane, une habitante de Cergy qui a voté pour la première fois cette année. Ça s'appelle Les Français en direct.
RMC, Législative 2024. Les Français en direct.
Et Johanna, vous êtes donc en compagnie de Christiane.
Oui, bonjour, je suis avec Christiane, elle a 22 ans. Elle vit à Cergy, dans le Val d'Oise, où le Nouveau Front Populaire est arrivé devant au premier tour, suivi de près du Rassemblement National, puis en troisième place, la majorité présidentielle. Christiane, elle vit dans un quartier populaire de Cergy depuis ses 5 ans, depuis son arrivée en France. Elle est binationale, franco-béninoise, elle est naturalisée française depuis cette année. Donc c'était ses premières élections, la première fois qu'elle a voté, c'est aux européennes. Et là, c'était ses premières législatives, des législatives avec beaucoup d'enjeux pour Christiane.
Bonjour Christiane, en tout cas merci d'être avec nous. Christiane, vous avez réagi comment au résultat des législatives hier soir?
Je m'attendais pas à ce que l'extrême droite arrive en tête dans ma circonscription. Et du coup, ça a suscité un peu de l'inquiétude pour les résultats qui vont arriver dimanche.
Est-ce que justement vous allez rester mobilisé entre ces deux tours? Est-ce que vous allez essayer de convaincre les gens autour de vous?
Oui, l'enjeu, c'est que tout le monde vote. On a bien la preuve dans plusieurs circonscriptions que chaque voix compte. Il y a des circonscriptions qui se perdent à très peu de voix et des fois, ça se joue à deux ou trois bâtiments de la ville. Donc oui, l'enjeu, c'est que les prochains jours, ils soient dédiés à ce que les abstentionnistes puissent aller voter, et notamment les jeunes. Ouais.
Christiane, vous êtes binationale. Est-ce que, justement, parce que vous êtes binationale, ce vote revêt une importance particulière pour vous?
C'est des élections qui font assez peur parce que oui, derrière les discours qu'on a pu avoir ces dernières semaines sur les binationaux, sur même tous les enjeux d'égalité entre les Français, c'est des choses qui prennent littéralement aux tripes quand je sais pas, on veut, moi par exemple en tant qu'étudiante, je me destine à entrer dans la fonction publique en lien avec mes études, bah c'est des choses qui ont des conséquences concrètes sur les trajectoires de vie qu'on se dessine dans ce pays. Donc oui, ces élections elles sont assez flippantes, pour être honnête.
Alors, vous êtes très mobilisée hein, au cœur des quartiers, Christiane. Est-ce que vous craignez justement des réactions dans les quartiers en fonction des résultats du deuxième tour?
Bah, c'est sûr qu'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est un peu un certain affront d'une certaine manière à une partie de la population française. Et bien sûr que la crainte que ça s'embrase, que la colère se fasse ressentir dans les quartiers qui sont stigmatisés, notamment par l'extrême droite, se fasse ressentir, c'est une inquiétude.
Merci beaucoup Christiane d'avoir été avec nous. On retrouvera les Français en direct avec un autre reporter, Romain Poiseau, tout à l'heure aux alentours de 13h30 dans Estelle Midi. Dans un instant, Anthony Morel sur ce plateau qui viendra nous parler des applis de rencontre par affinité politique. On verra si ça marche ou pas. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 12h52, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, et tout de suite on parle amour et politique avec Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi,
on n'arrête pas le progrès.
Et oui, c'est une spéciale législative, Anthony. Et ce que vous nous dites, c'est que la politique, c'est dur. Voilà, ça peut parfois être un combat, c'est violent, mais ça peut permettre également de trouver l'amour.
Mais exactement. Et vous savez que maintenant, il y a des sites et applications qui se sont lancés pour trouver l'âme sœur dans son camp politique. Voilà, des sites de rencontres par affinité politique. Bah oui, parce que Mythic, Tinder, c'est bien gentil, mais c'est un peu trop généraliste. T'as un date, un petit rendez-vous. Au bout de 5 minutes, t'as même pas entamé les mojitos, tu te rends compte que vous êtes vraiment diamétralement, viscéralement opposés, tu sais que ça va pas le faire. Et donc, il y a ces sites qui se sont lancés. Alors, je vous en donne quelques-uns. Moi, j'ai découvert cet univers. Je trouve ça absolument formidable. Par exemple, alors, ça va vraiment sur tout le spectre politique. Tu as Droite au cœur, par exemple. Donc, droite comme la droite.
Je l'avais.
Ah, moi, j'aime bien. Je trouve ça très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, site qui se présente comme un.
Est-ce qu'il y a droite au but après?
Oui, droite au but. Ça, c'est pour les fans de l'OM, mais ouais, c'est pour une autre chronique, ça.
Et porte à gauche.
C'est le Tinder des patriotes, Droite au cœur, qui veut mettre en relation, je les cite, des femmes et des hommes fiers de notre pays. Partageant les mêmes valeurs. Mmh. Avec cette accroche, les filles, vous n'en avez pas marre de tomber sur des gauchistes à deux neurones. Voilà. Très bonne accroche. Et donc, si vous êtes plutôt dans l'autre camp, parce que là, en gros, le principe, c'est on vous demande de vous inscrire. Et donc, on vous demande, en plus des informations traditionnelles, en gros, pour qui vous votez. Alors, c'est soit Républicain, Reconquête ou RN. Si vous êtes LFI, vous
votez. Oui, a priori, vous n'avez pas la main.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que pour l'autre camp politique, vous avez l'équivalent. Vous avez Gauche Rencontre, notamment, qui fonctionne un petit peu plus, un peu sur le même.
Ça fait un peu vieillot, Gauche Rencontre.
Gauche Rencontre, un peu. J'aimais mieux le nom.
Ça fait un peu notre tour.
On dirait pas Boum Boum.
C'est vrai. Alors, s'il y avait un autre nom génial, c'était un groupe de rencontres. C'était sur Facebook. Alors, il n'existe plus, mais juste pour le nom, c'était Insoumythique.
Ah, j'adore,
ça, c'est
génial.
C'est génial. Avec des petites annonces du genre, faucille seule cherche marteau. Je trouve ça extraordinaire.
J'adore.
Mais alors, les champions toutes catégories, c'est les écolos, en tout cas en termes de nombre de sites à vie incroyables. Alors, vous avez Green Lovers, Amour Bio, Bio
Amour
Flirt,
Bio.
Amour Bio. C'est exactement ça. Ou Écolo Rencontre. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est intéressant l'idée de rencontrer des gens qui pensent un peu comme toi. Après,
c'est sur un bouton.
Moi, je veux dire, ça m'est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous, pas amoureux du coup, mais qui s'est terminé en 5 minutes.
Bah, c'est ça.
Top chrono, parce qu'on s'est engueulé directement sur de la politique. Il est parti, il m'a laissé l'addition. Et depuis, je me suis rendu compte qu'à mon niveau de politisation et d'investissement, c'était plus possible avec des amis. Oui, mais avec un partenaire de vie, d'être avec quelqu'un qui ne partage diamétralement pas mes opinions.
Ça, c'est vrai.
Impossible.
Après, l'inconvénient de ça, je trouve, c'est que, encore une fois, ça nous enferme dans ce qu'on appelle les bulles de filtre, quoi. C'est comme les réseaux sociaux, c'est que finalement, on ne va t'exposer qu'à des gens qui pensent exactement comme toi.
Oui, mais pour un partenaire, pour les amis, on peut garder toute une diversité d'amis, ça va. Mais pour un partenaire de vie,
ça pimente un peu la relation.
Il faut trouver des types originaux.
Voilà. Et il y a pour tous les partis, c'est-à-dire que là, les LR, faut quand même qu'ils se dépêchent. Vous voyez ce que je veux dire
parce que, oui, c'est ça. Ou qu'ils se reconvertissent, j'en sais rien, mais effectivement, pour tous les partis.
Et le RN, il y a quelque chose ou non? Ma chérie, nous voilà, par exemple, ça pourrait se faire.
Pourquoi?
Pour le RN,
ouais, je crois que Droite au cœur, ça correspond, c'est vraiment la droite, mais au sens large.
Voilà, donc on peut trouver l'amour grâce à la politique. Merci beaucoup, Anthony Morel. On se retrouve demain dans Estelle Midi. On parle de quoi?
Demain, on parlera santé. Demain, on parlera de l'intelligence artificielle au service des urgences pour désengorger les hôpitaux.
Ah, génial. Ouais. Merci beaucoup, Anthony, tous les jours. Midi 50 dans Estelle Midi. À mon avis, les résultats sont vérifiés.
Ouais.
Dans un instant, on continue à parler, bien sûr, des législatives. On se demandera si ce résultat, ce score élevé du RN hier, est-ce que c'est la revanche de la France d'en bas? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16 et sur l'appli RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h.
Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 14h avec Rémi Barré, avec le journaliste Perico Légas, avec le désormais propriétaire de Gîte, les grands connaisseurs de la vie politique française, Jérôme Lavrieux, et avec Juliette Briens, qui est journaliste à L'Incorrect. Dans un instant, on va revenir bien sûr sur le premier tour des législatives et ce raz-de-marée du RN. Ce raz-de-marée est-il une revanche de la France d'en bas? Dites-nous si justement vous vous sentez oublié par les élites et que vous avez voté RN pour vous sentir enfin considéré. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. À 13h30, on parlera du meilleur du jour sur RMC, le zapping avec le dégagisme. Plusieurs personnalités qui ont été dégagées dès le premier tour, Jérôme Cahuzac, Damien Abad ou encore Clément Beaune. Et on parlera également de Jean-Luc Mélenchon qui est apparu à côté de Rima Hassan qui était vêtue d'un keffier hier soir et ça a beaucoup fait parler. Et puis on vous offre des places de foot, Rémi, sur RMC.
Oui, cette semaine sur RMC, nous vous envoyons en Allemagne pour assister au quart de finale de l'Euro 2024. Nous vous proposons de vivre l'expérience RMC. Le voyage à Hambourg, le vol et l'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match. Et bien sûr, vos deux places pour le quart de finale qui se disputera le 5 juillet prochain à 21h. Ce sera un quart de finale soit France ou Belgique contre Portugal ou Slovénie. Dès que vous entendez cette alerte, vous aurez alors 5 minutes pour envoyer euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Cette alerte, elle peut tomber à tout moment. Vos places pour le quart de finale de l'Euro 2024. On espère bien qu'il y aura la France dans le lot. Se gagne uniquement sur RMC.
RMC Estelle Midi.
13h05 sur RMC, on va poursuivre Estelle Midi avec le mécontentement du jour et c'est celui des Français qui ont voté massivement contre le parti présidentiel hier aux législatives. Des Français qui ont voté massivement pour le RN, notamment chez les classes populaires, Rémi, et chez les ruraux.
Oui, et on le sait assez précisément à quoi ressemble ce profil de l'électeur RN grâce à une enquête Ipsos. Ceux qui ont glissé un bulletin de vote pour un candidat RN hier sont majoritairement des hommes, ouvriers ou employés âgés de 50 à 59 ans. Ça, c'est le portrait type. Dans le détail, les 50-59 ans ont voté à 40% pour le Rassemblement National hier, les 18-24 ans à 33%. Quand on s'intéresse aux professions, les ouvriers ont voté à 57% pour le parti de Jordan Bardella. Les employés sont 44% à l'avoir fait. Les cadres et les professions intermédiaires, à 34%. Le vote RN est inversement proportionnel avec le niveau d'études, c'est ce que nous dit aussi cette étude. 49% des personnes qui ont un niveau de formation inférieur au bac ont voté RN. 38% des seuls détenteurs du baccalauréat l'ont fait. Un vote de colère ou de ras-le-bol, ou en tout cas d'insatisfaction. Un électeur du RN sur deux se dit pas satisfait de sa vie, et c'est un record par rapport aux autres votes. Et la carte de France de ce vote, elle est très parlante, il suffit de regarder. Hormis, j'allais dire, les grandes villes, et en particulier Paris, et dans une moindre mesure la Bretagne, tout le reste de la France a majoritairement voté RN.
Alors, ce succès du RN hier au premier tour des législatives, est-ce la revanche de la France d'en bas, Perico Légas?
Ce n'est pas la revanche de la France d'en bas, c'est le cri de souffrance de la France d'en bas, qui n'en peut plus de ne pas être écouté. On peut donner le chiffre de 40 ans. Depuis les promesses, depuis 81, cette classe populaire, mais maintenant il y a des classes moyennes qui y sont, qui se sentent défavorisées par une mondialisation où on leur dit, grâce à votre sacrifice, les gens pauvres du bout du monde vivent mieux. Mais c'est vous qui allez payer, c'est pas les très riches. Il y a ce sentiment. Et puis ensuite, ce sentiment très fort que la continuité de la société française telle qu'ils l'ont vécue, avec des apports de populations étrangères régulières, sans ça la France n'aurait pas la France, cette continuité peut à un moment donné ressembler à ce que certains appellent une forme de remplacement. C'est ça qui a fait peur. Il y a dans le vote d'hier quelque chose de très clair. Il y a hier des Françaises et des Français qui avaient voté Emmanuel Macron en 2017 au deuxième tour pour faire barrage à Marine Le Pen, qui ont renouvelé l'expérience en 2022. Ils ont voté Macron alors qu'ils n'étaient pas macroniens ni d'accord avec ses opinions politiques, contre Marine Le Pen pour faire barrage. Donc c'est des gens qui venaient du camp d'en face. À 11 millions, ça veut dire que ces gens-là, lassés d'avoir été trompés, menés en bateau, de voir des promesses non tenues, de voir des alliances contre nature sous prétexte que l'on protège de ne sait quoi, eh ben ils ont passé le cap, ils ont franchi le Rubicon, allé à Jacques-Taest, et ils ont donné leur voix pour expérimenter cette solution. Voilà, donc c'est effectivement une insurrection, c'est un gilet jaune puissance nationale, par le suffrage universel avec une participation qui légitimise totalement ce vote. Si la classe politique, et le drame d'hier soir, c'est qu'on a eu des combats d'état-major, de désistement, tant qu'on ne dira pas aux Français, voilà l'origine de vos souffrances, voilà l'origine du vote du Front National. C'est ce qu'avait dit Macron, je vais venir pour détruire les causes qui font que les Français votent Front National. Son échec n'est pas patent, c'est un cataclysme, c'est une hécatombe ce qu'il a fait. Il faut aujourd'hui résoudre les problèmes qui font que 11 millions de Français sont allés voter hier pour l'Assemblée nationale. Il y a des solutions, il faut juste écouter ceux qui les dénoncent.
Jérôme Lavrieux, est-ce que finalement ce sont les gilets jaunes qui ont infusé sur l'ensemble de la société?
Moi, je pense que les deux phénomènes majeurs qu'il faut regarder pour expliquer pourquoi ce qu'on dénomme, c'est l'INSEE quasiment qui nous le dit en séparant les gens en catégories socio-professionnelles, la France d'en bas qui a le plus voté. Cette France d'en bas dont on parle, pendant très longtemps, c'est la gauche qui lui parlait. Ouais. C'est elle qui a fait élire François Mitterrand. Et puis, dans la fin des années 90, début des années 2000, la gauche, le Parti socialiste, qui n'est quand même que l'ombre de lui-même, même aujourd'hui,
le PS,
a abandonné les classes dites populaires, qui sont plus les oubliés que la France d'en bas, au profit d'un vote plus communautariste. On le voit, par exemple, quand on voit Rima Hassan avec son keffiyeh à côté de Jean-Luc Mélenchon, il y a 25 ou 30 ans, on aurait mis quelqu'un avec un bleu de travail à côté. Là, on a mis quelqu'un avec un keffiyeh à côté. Tout est important en termes de communication. Donc, cette gauche-là ne parle plus. Mais il faut bien que les gens aient un débouché. Le coup de génie de Marine Le Pen, contrairement à son père, qui était plutôt riganien en point de vue économie, c'était de parler à cette France oubliée. Oubliée des autoroutes, oubliée du haut débit, oubliée des cinémas.
C'est pas péjoratif,
hein, François,
en tout cas.
C'est un compliment aujourd'hui.
Oubliée des cinémas, oubliée de tout un tas de choses. Elle a décidé de leur parler parce que plus personne ne leur parlait. Et sauf que ces gens vont voter. Sauf que ces gens vont voter. Et la gauche se retrouve à la remorque, enfin la gauche modérée se retrouve à la remorque et dissoute, diluée dans une gauche menée par LFI qui ne parle plus. Moi, je l'ai vécu à Saint-Quentin dans ma ville.
D'accord.
Pendant très longtemps, les quartiers qui votaient communistes dans l'Aisne, qui votaient communistes, ils sont passés au Front National à l'époque.
Ah bah, dans l'Aisne, il y a quatre candidats qui ont été élus directement.
Ils sont passés direct des cocos au Rassemblement National, quartier pour quartier, parce que la gauche ne leur parlait plus. Et ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et si la gauche ne revient pas pour leur parler, voilà, on a un vide qui est comblé par le Front National.
Juliette Briens, est-ce que le vote d'hier, pour vous, c'est un vote pour une croyance en un monde meilleur, finalement, ou c'est vraiment un vote de protestation ?
De protestation dans un sens, oui, mais pour des sujets bien précis. Déjà, j'aime beaucoup, en tout cas, le fait de remplacer le terme de France du bas par France des oubliés. Déjà aussi parce que c'est vrai que ce sont les ouvriers, les gens qui travaillent de leurs mains, qui effectivement votent pour le Rassemblement National aussi. Mais il y a une énorme percée chez les CSP+, et c'est ça qui a permis à Marine Le Pen d'accéder à une nouvelle tranche dans les sondages. Mais il est vrai que d'après, par exemple, un dernier sondage Ipsos, il me semble, sur les revendications, en tout cas du vote RN, c'est très clair. C'est 1, immigration, 2, pouvoir d'achat, 3, sécurité. Et pendant des années, depuis 30 ans, on explique à ces gens que ces préoccupations-là, elles sont d'extrême droite. Il y a qu'à voir hier l'ambiance sur Twitter. On a un journaliste quand même de Being Sport qui a tweeté, je cite, « Il y a 12 millions de fils de pute dans ce pays ». Bon, il a supprimé depuis, mais vous imaginez la violence. Mais c'est ça qu'ils ressentent au quotidien, ces gens. C'est ce mépris-là qui vient d'une espèce d'oligarchie bobo de la capitale dont ils se sentent parfaitement déconnectés. Ajoutez à ça les artistes, etc., ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'ont de cesse de leur donner des leçons de morale du haut de leur immeuble dans le 16e, ou dans le 15e, ou dans le 11e. Et donc, ces gens, évidemment, sont dans le rejet du système, de ces donneurs de leçons. Et cette colère, il faut l'entendre. Et au lieu de l'entendre, on continue, on s'obstine, on ne répond pas aux questions, on s'obstine à dire barrage à l'extrême droite, barrage aux fascistes. Mais eux ne se sont jamais sentis d'extrême droite ni fascistes. Donc quand est-ce qu'on arrête, en fait ?
Estelle, je me souviens, le 21 avril 2002, au soir du premier tour, lorsqu'il est annoncé que Jospin est troisième et que Jean-Marie Le Pen sera deuxième face à Chirac au deuxième tour. Je me souviens du discours de Le Pen. J'ai à côté de moi deux grandes personnalités de la gauche, je ne vais pas dire qui c'est. Ils écoutent Le Pen dire... Ce soir, les exclus, les petits, les sans-grades, les oubliés. Et je les entends se dire, merde, c'est à nous à dire ça. C'est lui qui sait. Heureusement qu'ensuite, il y a eu un sursaut, comme en 2002, qui n'a pas eu lieu là. Mais le discours de la France d'en bas, c'était Jean-Marie Le Pen qui l'avait symbolisé par ses formules. Voilà. Et aujourd'hui, ce discours du 21 avril 2002, dans la bouche de sa fille, il a porté les représentants de la France qui souffre, de la France d'en bas des oubliés, du prolétariat de la classe ouvrière, qui n'est plus ce qu'elle était, c'est aujourd'hui le RN qui la porte, et c'est là où il y a un avertissement très sérieux aux autres partis. Voilà.
Et après, le RN fait très très attention à toujours avoir un discours qui est extrêmement compréhensible par tous. C'est-à-dire jamais de mots hyper compliqués. Jamais.
Hier soir, Jordan Bardella prend la parole. Il appelle à l'unité nationale.
Oui.
Ah oui, bien sûr. Il y a, en fait, pour.
D'ailleurs, la coalition.
Il détaille tout de suite. Il est déjà dans le deuxième tour. Il détaille tout de suite pourquoi les gens devraient voter pour l'RN. Et il parle de pouvoir d'achat, etc.
La stratégie du RN, c'est évidemment d'annihiler cette opposition entre gauche-droite. Pour eux, l'opposition gauche-droite n'existe plus. C'est les élites contre le peuple.
Avec quelques messages au marché financier en disant, voyez, on n'est pas si méchants.
Oui, la bourse montait de 2,5 ce matin.
C'est stupéfiant, vous avez vu ça.
Mais parce qu'en fait, il n'y a pas eu de surprise. C'était des résultats attendus. Rémi, vous avez
ce message de David, qui est très révélateur. David, il nous écrit sur Direct Studio. Bonjour. Oui, nous, en zone rurale, nous sommes les oubliés. Je précise que j'ai Bac+2, que je vois ce qui se passe. À la campagne, on n'a pas de bus, pas d'aide, pas de tramway. On doit prendre notre voiture. On travaille dur. À la ville, c'est sa manière de voir les choses. Les gens et la jeunesse à tout, magasins, cinéma, bus, métro, tramway, bénéficient de toutes les aides possibles. Et il faut que ça cesse. Merde. Il faut que ça s'arrête.
Et voilà pourquoi après, on leur fait porter aussi la responsabilité, par exemple, de la crise climatique. On l'a vu, c'est ce qui a commencé les gilets jaunes, en leur disant, les consommateurs de diesel, on vous pointe du doigt, alors qu'ils n'ont rien d'autre.
Oui, alors il y a beaucoup de villes qui sont revenues quand même sur les ZFE. Oui. Entre-temps, on va prendre tout de suite Sébastien en ligne, qui nous appelle de Culin, dans l'Isère, et qui est technicien. Bonjour Sébastien.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Et Sébastien, alors vous êtes un électeur RN, je crois. Pourquoi est-ce que vous avez voté RN, finalement? Est-ce que c'est dans un esprit, effectivement, de revanche ou c'est vraiment un vote de conviction et d'adhésion?
Alors, pour moi, c'est un vote de conviction. Après, est-ce qu'on est les oubliés de la France d'en bas? Non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est surtout les électeurs de la France qui en a marre, qui subit. Qui a subi la Macronie, qui a subi tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on a clairement un sentiment d'insécurité en France. C'est une vérité, on ne va pas se le cacher. Moi, je travaille sur le bord des routes, je fais de l'éclairage public régulièrement. On est agressé régulièrement, on se fait insulter régulièrement. On est traité comme des moins que rien parce qu'on a en bleu de travail. À un moment donné, je pense qu'il faut inverser la tendance et je pense clairement, oui, que ça passe par le Rassemblement National.
Vous pensez clairement que ça va changer votre quotidien?
Ça va changer mon quotidien et le quotidien de beaucoup de Français. Vous voyez, par exemple, je vote Rassemblement National, mais je tiens à préciser, je ne suis absolument pas raciste. Ce n'est pas pour les causes migratoires, ce n'est pas pour tout ça, c'est vraiment pour retrouver une France.
C'est la sécurité.
Et pas celle de M. Mélenchon. Quand hier, je regarde la télé, que je regarde BFM TV, que j'allume la télé après les résultats et que je vois un rassemblement Place de la République avec des drapeaux algériens, palestiniens, tout sort de drapeaux, sauf celui de France.
Et tout le monde déteste la police, scandé.
Exactement, oui, je m'indigne. Et aujourd'hui, moi, les forces de police qui ont tout mon respect ne sont plus respectées. Et c'est impossible en France.
Bah merci beaucoup, en tout cas, voilà, Sébastien, d'avoir été avec nous.
Vous êtes pour ce que Finkielkraut appelle la continuité de cette société que vous ne voulez pas voir disparaître telle qu'elle a toujours été.
En tout cas, il est pour plus de sécurité. Mais merci beaucoup, Sébastien. Leïla également est avec nous. Leïla, qui est de Lyon et qui est infirmière. Bonjour, Leïla.
Bonjour.
Leïla, est-ce que pour vous, ce vote RN, c'est un vote de protestation de la France d'en bas? C'est la revanche de la France d'en bas pour vous?
Non. Moi, je pense que surtout, c'est pas la revanche de la France d'en bas. J'aime pas aussi ce terme de France d'en bas, mais c'est surtout qu'on arrive au bout d'un système et que les gens voient très bien que les conditions et de travail et de vie, etc., se dégradent. Et après avoir essayé la droite, après avoir essayé la gauche, ils se disent pourquoi pas le RN. Mais bon, moi, sincèrement, je pense que ça changera pas grand-chose. Regardez l'état de nos campagnes, plus de services publics, plus rien du tout, plus d'hôpitaux, parce que ça coûte très cher. Enfin, je crois qu'à un moment, faut poser les mots. Moi, je suis indépendante. Quand on enlève des maternités dans des petites villes, enfin ce qu'ils appellent des campagnes, mais où va ma thune? Enfin, clairement, je paye de l'URSSAF, je paye de l'impôt, je n'arrête pas de payer. Clairement, je n'arrête pas de payer. Où va ma thune? Voilà. Et je pense que c'est surtout un vote pour faire comprendre aux politiques que on est effectivement à bout d'un système et qu'il faut nous proposer quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Après, j'ai envie de dire, la préférence nationale, ça ne me choque pas, ça se fait partout dans d'autres pays, ça faut le savoir, je voyage assez pour le savoir. Après, les flux migratoires, on ne pourra pas les arrêter tel que le dit le RN, parce que faut bien payer nos retraites.
Regardez ce qui se passe en Italie.
Voilà, faut bien payer nos retraites, faut bien repeupler nos campagnes. Comment on va faire? Ben voilà, donc à un moment, l'insécurité, je pense qu'effectivement, il faudrait que la justice soit plus ferme, avec une police qui soit plus présente.
Oui, mais regardez, Gérald Darmanin a essayé, il a échoué. Donc à un moment, vous l'avez dit vous-même, on n'a plus d'argent. Donc, mais oui, mais si on n'a plus d'argent pour recruter des policiers, des profs, des infirmières, etc., de toute façon, la situation, elle sera la même.
Alors Estelle, je crois qu'à un moment, il faut revoir toutes nos institutions et arrêter...
Il y a assez d'impôts, je pense qu'il y a de l'argent.
Et arrêter les usines à gaz. Hein, aussi, d'accord. Parce que moi, j'aimerais bien savoir tous les visés, etc., sans être démago, mais combien ça coûte. Moi, je veux qu'on fasse une politique comme dans les pays nordiques.
C'est pas ça, mais combien même Emmanuel Macron, il paierait l'essence dans sa voiture. Non, je veux dire, ça rendrait pas de pouvoir d'achat aux Français. Mmh. En fait, bien le symbole, il est gênant. Ça, je le comprends. Il est très gênant. Mais en vrai, en matière d'argent. Ça changerait pas grand-chose.
Les pays nordiques, il y a des monarchies qui roulent dans des carrosses et puis c'est pas ça qui fait le bonheur du peuple.
Il faut revoir nos institutions. Faut faire des économies et pas faire des usines à gaz, des audits sur audits et des choses comme ça.
Vous voulez tout changer, en fait.
Il faut revoir nos dépenses.
D'accord. Merci.
Il faut revoir nos dépenses. Voilà, exactement. Il faut revoir nos dépenses.
Eh ben, merci beaucoup, Leïla, en tout cas, pour ce coup de gueule. Oui, Rémi.
Non, je voulais intervenir sur Leïla. Je sais pas si elle est encore avec nous très rapidement, Leïla. Elle est encore là?
Allez-y, Leïla.
Et c'est bien Leïla, on se connaît, Leïla?
Bien sûr qu'on se connaît.
Oui, parce qu'on avait fait une émission RMC chez Leïla à l'époque. Oui, absolument. Leïla, je me trompe pas, à l'époque, vous étiez, vous croyiez à l'époque à Emmanuel Macron, vous étiez engagé pour le macronisme.
Non, moi j'étais plus de droite. Alors moi, j'ai la chance quand même, dans ma circonscription, il reste encore des centristes plutôt droite, ce que je suis. Clairement.
La situation dans laquelle, juste très rapidement, Leïla, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, qu'on la déplore ou pas, elle est consécutive de l'échec quand même des autres, non?
Ah ben oui, c'est pas que de Macron, je veux dire, c'est une continuité, choses. Mm-hmm. Donc voilà, mais c'est vrai que moi je suis encore de centre droite et moi je fais partie de cette France qui va être, et passez-moi le terme, je parle familièrement, mais on est entre nous, bananée. Clairement, je vais être bananée, que ce soit d'un côté ou de l'autre.
Et oui, voilà. C'est la France dont on parlait tout à l'heure, et le nini, effectivement, et on ne sait plus trop, la France modérée qui ne sait pas trop, effectivement, pour qui voter, etc. Merci beaucoup, en tout cas, Leïla, d'avoir été avec nous et notre invitée sur ce débat. On est ravis de l'accueillir. C'est Philippe Moreau-Chauvrelet, professeur de communication à Sciences Po. Bonjour, Philippe.
Bonjour Estelle.
Alors Philippe, vous êtes l'un des premiers à avoir dit que finalement le RN pourrait avoir une majorité absolue à l'Assemblée. Vous nous avez dit il y a quelques jours dans Estelle Midi. Finalement, donc vous aviez plutôt raison. On se demande aujourd'hui si ce vote RN qui a été massif hier, est-ce que c'est une revanche de la France d'en bas selon vous ?
Il y a plusieurs paramètres. Il y a un paramètre social évidemment. C'est évident que c'est plutôt les catégories les plus populaires des électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National. Mais il y a d'autres clivages. Il y a notamment un clivage ville-campagne, d'ailleurs, qu'on a très bien entendu chez vos auditeurs, et qui est là vraiment différent. C'est-à-dire qu'au fond, on a dans les grandes villes un vote RN qui est assez faible, à part quelques exceptions. Et on a un vote, par contre, dans le monde rural, qui est extrêmement fort, et notamment dans les petites communes. Et parfois, ça change complètement la configuration des circonscriptions. Donc, on a beaucoup de clivages à l'œuvre.
Mais ça s'explique comment, justement, ce vote rural en faveur du RN ?
C'est pas comme ça a été dit. Je pense qu'il y a une perception qui est qu'en fait, on fait tout en fonction des centres urbains et pas du tout de la ruralité. Il y a un désert des services publics qui s'installe progressivement. Mais le problème, c'est que votre auditrice l'a très bien résumé, complètement résumé. C'est que d'un côté, on aimerait bien avoir une présidence scandinave, suédois, on exit l'Elysée. L'Elysée, on en fait un musée accessible à tous. On met l'Elysée à la Courneuve dans des bâtiments fonctionnels et ça ira très bien. Le problème, c'est que quand vous dites ça, vous avez énormément de Français qui vous disent non, mais moi, je veux un président qui soit une autorité respectée au niveau de la représentation de la France.
Ça n'empêche pas.
Vous allez dire, il faut des services publics. Très bien, mais dans ce cas, il faut qu'on dépense plus. Et là, vous avez tout un tas de gens qui vous disent ah bah oui, mais non, on peut pas
je
dépenser
trop d'impôts,
plus,
ouais.
On est endetté, etc.
Donc, on dépense bien, mieux.
Le RN est le fruit de nos contradictions et il faut, à mon avis, qu'il y ait une clarification, comme le disait le président, politique qui s'opère au moins à gauche, où on retrouve le sens de ce qu'on défend, les services publics, le social, les gens, et arrêter de regarder d'une part son nombril et ses organisations, et ensuite d'avoir que comme considération que des profits financiers. Je veux dire, c'est pas possible.
Mais est-ce que le vote d'hier, c'est un vote, selon vous, de gens qui croient vraiment que le RN va changer leur vie, ou est-ce que c'est avant tout un vote de protestation ?
Ah non, je pense que c'est... Non, le vote de protestation, ça n'est plus d'actualité. On a un vote d'adhésion, ça fait déjà très longtemps que le RN travaille, et je pense qu'on n'a jamais eu des Français aussi éduqués qu'aujourd'hui, dans toute l'histoire de France. Donc s'ils font ce choix-là, il faut l'entendre. D'abord, c'est un choix responsable, c'est-à-dire que le choix qu'ils font, il faut qu'ils comprennent, ces électeurs-là, que ça aura des conséquences, et que ces conséquences, ils en porteront la responsabilité. Et c'est hyper important de traiter tous les électeurs en adultes pour cette raison-là. On fait des choix, ils ont des conséquences, il faudra y faire face. Et puis ensuite, non, ils considèrent que c'est la seule alternance qu'ils ont, mais ça fait 10 ans qu'on leur dit qu'il n'y a pas d'alternance. Il est normal d'en chercher une.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les partis politiques, les autres partis politiques devraient prendre exemple sur le RN, en tout cas dans la manière du RN de parler aux Français ?
Alors je pense qu'il y a un exemple à suivre, il y a un travail de fond qui a été fait par Marine Le Pen pour positionner le parti comme étant crédible de gouvernement, pas protestataire, etc. Et ils ont accompagné ça d'une vitrine qui est très séduisante, lisse, marketing, qui est Jordan Bardella. Ça, c'est un exemple à suivre au sens où on peut à la fois avoir un travail politique de construction d'un parti et ne pas changer de parti à chaque élection, comme Ensemble, Renaissance, En Marche l'a fait. Et on peut en même temps, effectivement, avoir un produit d'appel marketing qui est peut-être un peu plus grand public, si on est en termes de communication, un peu plus lisse, qui est Jordan Bardella, qui évite de parler politique trop. Hein.
Oui,
et ça fonctionne bien, parce qu'on construit et en même temps, on essaie d'aller voir les gens. Maintenant, le positionnement de base, c'est quand même un positionnement que tout le monde veut, qui est un positionnement social et sur le pouvoir d'achat. On voit bien que ce qui motive votre auditrice pour voter RN, c'est pas la préférence nationale, hein, c'est le social.
C'est ça, et l'auditeur d'avant aussi d'ailleurs, et c'est vrai que tous les auditeurs qu'on a eus et qui nous ont dit voter RN le faisaient jamais par rapport à l'immigration, c'était par rapport à la sécurité, par rapport
au pouvoir d'achat. C'est pas ce que disent les chiffres, en fait c'est un tout.
Non, mais c'est un phénomène que Jérôme Fourquet et Jean-Christophe Guilly ont parfaitement démontré depuis des années sur cette fracture sociale et territoriale qui coupe la France en deux.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet en tout cas d'avoir été notre invité, vous aussi je pense qu'on vous retrouvera très vite dans Estelle Midi. On va terminer avec Arnaud qui nous appelle de Saint-Rémy-la-Varenne, c'est dans le Maine-et-Loire. Arnaud, il votait LR avant, il vote RN maintenant. Bonjour Arnaud.
Oui, bonjour. Merci de m'accueillir.
Mais il a été facile à faire ce cheminement, Arnaud ?
Bon, il a été facile à faire. Non, il n'a pas été facile à faire. RN, il y a une connotation derrière Marine Le Pen. Moi, le discours de Marine Le Pen, honnêtement, ça ne me plaît pas. Par contre, là, aujourd'hui, il y a un nouveau visage qui se présente à nous. Quelqu'un de jeune, quelqu'un qui tient debout avec Jordan Bardella. Et voilà, donc aujourd'hui, je pense que... Non, c'est un cliché, la France d'en bas, non. Là, il faut remettre les choses, on va dire, en place. Quand on voit Hidalgo qui dépense des milliards pour mettre de l'argent dans la Seine, alors que... Là, en ce moment, on a l'impression qu'on se fout de nous... à tout bout de champ, quoi. On entend qu'Isaac qui revient en politique, faut qu'on passe à autre chose.
Oh oui,
aujourd'hui,
fait.
On a besoin.
C'était belle année hier.
Il est revenu assez brièvement.
Oui, ça a été un retour éclair, on va dire.
Pas.
Non, mais ce que vous dites, en fait, Arnaud, c'est que quelque part, l'argent est mal dépensé, quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait. On balance de l'argent par les fêtes. Il faut, je pense, un retour à l'ordre et puis voilà, une meilleure.
Et un peu plus de sobriété.
De la France, tout simplement. Voilà.
Merci Arnaud, en tout cas, d'avoir été avec nous. Des messages, Rémi, sur l'appli RMC, le résultat de notre sondage.
Allez, ce message de Jean-Pierre. Bonjour, je suis cadre retraité de 62 ans. J'ai voté Mélenchon en 2017. Blanc au second. Roussel au premier tour de 2022. Abstenu au second. J'ai voté RN aux européennes de 2024.
Ah oui, enfin.
Et à ce premier tour des législatives, je ne suis pas raciste, mais j'en ai ras-le-bol. De l'insécurité, de ce qu'il appelle la cistana, des fraudes de tous niveaux, de la mauvaise gestion de notre argent public et du fait que la police ne soit plus respectée. et j'en passe.
Il a fait du chemin. Hein.
Alors, ouais, le succès. Ben oui, oui, mais il y a beaucoup de Français qui ont effectivement fait du chemin. Le succès du RN aux législatives, est-ce la revanche de la France d'en bas, Rémi ?
Oui, sans aucun doute, pour les trois quarts de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux, ils sont 76% à le penser.
Ah. Allez, dans un instant, on aura les Français en direct. On rejoindra notre reporter Romain Poinzeau, qui est dans les Alpes-Maritimes avec Fabio. Fabio, c'est un fils de berger. Il a voté RN. Mais alors, il a voté RN, mais pas pour les raisons que l'on évoque souvent ici. C'est pour une raison assez étonnante. Et puis ensuite, il y aura le zapping, le meilleur d'RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Salut. On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Perico Légas, avec Jérôme Lavrieux et Juliette Briens. On continue bien sûr à parler du résultat du premier tour des législatives hier avec un gros succès du RN. Et on est avec tout de suite Romain Poinzeau, notre reporter dans les Alpes-Maritimes, dans la vallée de la Roya. Il est avec Fabio, un électeur RN. Voici tout de suite les Français en direct.
RMC, législative 2024. Les Français en direct.
Avec Fabio, qui est retraité et qui est fils de berger dans la vallée de la Roya.
Tout à fait. Eh bien, écoutez, je me trouve là en pleine montagne. Je suis au-dessus de la vallée de la Roya, les pieds dans l'herbe, tranquillement. Et j'assiste depuis tout à l'heure à un conflit de bergers pour des questions de pâturage. Il n'y a pas que les législatives qui fâchent, décidément. Alors, en tout cas, ici, le Rassemblement National est arrivé largement en tête avec 56% des voix. Et je suis donc avec ce retraité, tout jeune retraité, Fabio, voilà, qui a 60 ans, fils de berger, natif du pays. Fabio, qui a voté Rassemblement National.
Oui, j'ai voté Rassemblement National parce que faut essayer, faut espérer voir peut-être quelque chose changer pour revenir peut-être à quelque chose de plus correct dans le futur.
Mais Fabio, Fabio, vous voulez voir les choses changer, mais quelle chose ?
Eh ben, je trouve aujourd'hui qu'il y a beaucoup moins de civisme, de respect, de. Je sais pas, il y a une mentalité qui a changé par rapport à pas mal d'années maintenant là.
En fait, vous avez voté RN, c'est pas tant contre l'immigration, mais c'est plus contre finalement cette, vous me disiez tout à l'heure, cette vague de néo-ruraux qui arrive dans vos campagnes, dans votre village, la Brigue, et qui dénature entre guillemets, c'est ce que vous me disiez, la mentalité, l'état d'esprit, l'authenticité de la ruralité. C'est ça, Fabio ?
C'est un peu ça, tout à fait ça, oui.
Sur quel point, par exemple, concrètement ?
Eh bien, sur les mentalités du travail, ne serait-ce que sur l'agriculture, etc., quoi. Avant, je trouve que c'était beaucoup plus, comment dire, les gens, si on savait pas qu'ils étaient agriculteurs, ou en aller au supermarché ou autre, faire les courses ou boire un coup, c'était la personne lambda comme moi et d'autres, quoi. Là, aujourd'hui, parce qu'ils sont agriculteurs, ils sont capables d'arriver avec du foin dans les cheveux ou de la terre dans les pieds ou, je trouve qu'il y a, c'est plus, je trouve ça un peu de, ça me dérange, moi, voilà.
C'est-à-dire que c'est un peu les écolos qui dénaturent votre campagne, c'est ça ce que vous dites ?
En deux mots, c'est un peu ça, oui, c'est un peu ça.
Alors justement, Perico Légas, voilà, on entend Fabio qui dit que finalement, son vote RN, et c'est vrai que moi c'est la première fois que j'entends ça, c'est un vote contre les écolos. C'est représentatif de ce qui se passe dans nos campagnes, ça, Perico ?
Alors, je comprends très bien ce que veut dire Fabio et les problèmes qu'il pose sont réels. Toutefois, la position politique du Rassemblement National sur les questions de ruralité, d'environnement, d'agriculture paysanne, ils sont pas clairs. Effectivement, les RN sont assez sensibles au discours de la FNSEA. Foutez la paix aux paysans, aux agriculteurs, laissez-leur gagner de l'argent. Il y a une concurrence internationale. Il faut comprendre qu'une partie de l'agriculture française doit rentrer sur le marché international. Attention, ce n'est pas ça qui préserve la ruralité et la France paysanne. Donc là, il faut qu'ils précisent exactement. En Europe, ils votent pour des lois plutôt anti-écologistes. Il y a une lecture de l'écologie qui est restrictive de la campagne, avec de l'idéologie. On dit l'écologie punitive, je trouve que c'est abusive. Mais souvent, les écolos et les verts sont là-dessus un petit peu idéologués, un petit peu doctrinaires. Et c'est vrai que Fabio, il défend la vraie campagne, les vraies valeurs de la nature et de l'agriculture. Et que c'est là où il faut faire bien la part des choses entre ce que propose le RN politiquement et les gens qui votent pour le RN pensant qu'il faut préserver cette certaine idée de la France.
Alors merci beaucoup Romain Poiseau et merci à Fabio d'avoir été avec nous dans Les Français en direct. Et c'est vrai que depuis le début de cette émission, eh bien on entend des auditeurs qui votent RN, mais personne ne vote pour la même raison, ne vote RN pour la même raison, et c'est ça qui est assez fou. Allez, dans un instant on aura le zapping, le meilleur des RMC. On va parler du dégagisme et de plusieurs personnalités qui sont sorties dès le premier tour, hein, Cahuzac, Abad ou encore Clément Beaune. On parlera également de Jean-Luc Mélenchon qui est apparu à l'antenne avec Rima Hassan qui portait un keffieh, ça a beaucoup fait parler. Et puis enfin bien sûr Kevin Vauquelin, victoire française hier sur le Tour de France, c'est la deuxième victoire.
C'est l'alerte aussi. C'est l'alerte, Estelle qui vient de retentir. Vous avez 5 minutes pour tenter de remporter vos places pour le quart de finale du vendredi 5 juillet à 21h. Ce soir, soit la France, soit la Belgique qui sera opposée soit au Portugal, soit à la Slovénie. On vous envoie en Allemagne à Hambourg, le vol, l'hôtel, la rencontre avec les équipes RMC. Vous avez 5 minutes pour envoyer Euro par SMS au 7 32 16.
Allez, tout de suite, le zapping, le meilleur d'RMC. On se retrouve dans un instant dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h43, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec Rémi Barré, avec Perry Collégas, Jérôme Lavrieux et Juliette Brien. C'est tout de suite, c'est le zapping, le meilleur d'RMC, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Le dégagisme est-il une bonne chose? Les résultats du premier tour des législatives ont montré une vraie tendance, celle de l'échec de certains grands noms de la politique, Cahuzac, Abad ou même Clément Beaune qui était encore ministre et député cette année. Et pour les GG, Joël Dagosséry et Charles Consigny, pas de quoi se réjouir, mais c'est en effet le signe d'un ras-le-bol des électeurs.
Je pense pas qu'on doive se réjouir de la débâcle des uns et des autres. Damien Abad, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a une vie compliquée. Donc moi, j'ai plutôt une espèce de pensée pour lui.
On a quand même, quoi qu'on dise Antoine avec ce truc d'adhésion, enfin on a quand même une grosse part de dégagisme.
Ce dégagisme est-il une bonne chose, Juliette Briens?
Écoutez, moi, je respecte la parole du peuple. J'ai pas vraiment de pensée profonde pour Damien Abad, Jérôme Cahuzac et Clément Beaune. J'avoue que je suis à court de larmes. Voilà, le peuple a parlé. Et s'ils en sont là aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas pris les bonnes décisions politiques, il me semble. Et voilà, je pense pas qu'il y ait d'autres analyses à en faire. Si vous voulez, le dégagisme.
Non, mais on voit aussi Fabien Roussel, voilà, qui a été dégagé au premier tour. Non, mais on est quand même sur des, voilà, mais on est quand même sur des personnalités politiques de premier plan. Fabien Roussel, il était, oui, je suis désolée, mais il était candidat à la présidentielle. Il jouissait plutôt d'une bonne réputation, tout le monde le trouvait hyper sympathique, etc.
Mais c'est pour ça que c'est vrai que chez Fabien Roussel, qui est intéressant, c'est ce côté un peu franchouillard, proche du peuple.
Mais lui, il se fait dégager, etc. Quoi.
Mais oui, parce que c'est l'alliance contre nature, voilà, avec LFI et avec Jean-Luc Mélenchon qui a tout bouffé.
Il a payé la confusion.
Oui, tout à fait.
C'est très triste.
Mais la politique, c'est un sport dangereux. Hein. Oui. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir bien fait votre mandat et parfois vraiment de l'avoir bien fait, jour et nuit. Et puis vous vous dégagez et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais c'est le jeu et à la fin, c'est l'électeur qui a raison. Hein. Sinon, il faut changer de système. C'est sans doute le pire des systèmes, comme disait Churchill, mais moi, j'en connais pas de meilleur. Donc, l'électeur a parlé. Ceux qui sont battus trouvent ça très injuste. Ouais. Ils ont parfois raison de le penser, mais c'est la dure loi du sport. Et puis, peut-être que ceux qui viennent gagner et qui sont en train de marcher sur l'eau, parce qu'ils ont 21 ou 22 ans, ils n'ont jamais foutu les pieds dans la circo dans laquelle ils viennent d'être élus. Ils y connaissent strictement rien. Et pour eux, la Constitution, c'est un texte qu'ils n'ont jamais lu. Peut-être qu'ils ne vont pas marcher sur l'eau très longtemps, qu'eux aussi vont trouver un jour injuste d'être dégagés à nouveau. Sinon, on n'aurait que des gens qui font 70 ans de mandat. Hein. Mais c'est pas le cas.
Avant, il y avait un peu péricou quand même, la prime à l'ancienneté, on va dire, la prime au sortant. Là, on a l'impression que c'est plus du tout ça, quoi. Et c'est, stop à tout ça, en fait. On veut des nouveaux, on veut des gens qu'on n'a jamais essayé, justement. Mais c'est vrai que pour certains, c'est assez violent.
C'est un signe de l'évolution de l'idée de liberté dans notre société. L'électeur s'émancipe non plus des consignes politiciennes ou des codes qu'il fallait respecter. Maintenant, il se comporte en citoyen libre et fait introduire des éléments de morale qui correspondent à ses idées ou pas à ses idées. Donc s'ils estiment que quelqu'un s'est mal comporté, même s'il répond à un parti politique pour lequel il avait décidé de voter, ben ils ont voté non. D'accord. Ils ont battu cet homme alors que l'homme, le candidat, représentait l'opinion politique. Voilà. C'est pas l'idéologie qui a été rebattue. Dans certains cas, c'est, lui on veut pas celui-là.
Mais c'est
et on verra au triangulaire des consignes qui seront pas respectées parce que les gens diront d'accord, il faut faire barrage, mais celui-là on n'en veut pas.
Et c'est le dégagisme pour la personne qui remplace quelqu'un qui a été dégagé, c'est pas une condition de succès.
Non, mais là je pars sur les cas qu'on a cités.
Emmanuel Macron a été élu en 2017 par une forme de dégagisme. Oui. Les gens, on en avait marre de Hollande, on pouvait plus l'encaisser. Sarkozy, plus personne ne pouvait le blairer à droite. Il a perdu au premier tour de la primaire et on a pris quelqu'un de nouveau.
C'est ça.
Et quelqu'un de nouveau, il n'est plus nouveau dès qu'il a été élu. Il faut que Bardella et compagnie intègrent bien cela. Ils n'ont pas marché sur l'eau pendant trop longtemps. Ça va être compliqué.
Elle est GG ce matin sur RMC. On va revenir sur la polémique. Hier soir, côté insoumis après les résultats, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé sur scène avec à ses côtés Rima Hassan, nouvelle eurodéputée vêtue d'un keffier palestinien. Et pour Olivier Truchot, cette tenue est incompréhensible et en décalage total avec les préoccupations de l'électorat français. Écoutez.
La gauche devrait répondre à Yvette. Et quand j'ai vu, excuse-moi, mais Jean-Luc Mélenchon hier, il réagit, il y a Rima Hassan qui est à côté.
Ben
elle
n'est
pas candidate, qui est députée européenne, qui a un keffier. J'ai bien compris qu'il s'agit de draguer une partie de l'électorat, et ça a fonctionné d'ailleurs aux européennes, ils ont fait 10%. Mais de continuer à le faire, donc afficher Rima Hassan. Et alors Yvette, c'est parce qu'elle veut. Yvette, elle veut pas Rima Hassan avec un keffier palestinien. Elle veut qu'on lui réponde sur l'électricité, sur sa retraite, sur la vie de ses enfants aussi, ce qu'ils vont devenir.
Perico, les gars, est-ce que ça vous a choqué hier soir cette image justement de Jean-Luc Mélenchon avec Rima Hassan?
Le keffier, c'est le symbole de la résistance palestinienne d'un peuple qui a été opprimé par Israël. C'est aussi le symbole de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc c'est une grosse maladresse, j'allais dire.
Je crois pas que ce soit maladroit.
C'est tout sauf une maladresse.
C'est fait exprès, ils ont pas oublié le keffier.
Non mais la conséquence, c'est une maladresse politique. C'est le message qu'il a voulu envoyer est extrêmement maladroit. Là, il a voulu un message, même dans son électorat, sais des gens.
Il a voulu l'envoyer ce message.
Il avait mis l'autre personne que Rima Hassan le mettre à côté de lui, s'il avait voulu. Là, c'est très clair, le message est en gros, je vous emmerde, je reste sur mes positions.
C'est exactement ça.
Voilà, je vous provoque et c'est tout ce que j'ai dit depuis sur cette question-là. Qui n'est pas une question législative française, je le pense, je le maintiens. D'abord, j'arbore la personne qui incarne cette lecture. C'est en voyant ce signe que je me suis dit, en fait, il souhaite la majorité absolue du Rassemblement national pour pouvoir créer une situation révolutionnaire dans laquelle il pourrait peut-être appeler à une ferme de rébellion dont il serait le leader. Je pense qu'on en est là.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que Rima Hassan, pendant toute la campagne, depuis les européennes et pendant toute la courte campagne des législatives, il l'avait mis au placard. On ne l'entendait plus, ni sur Twitter,
un peu moins, parce qu'elle parlait quand même.
Pratiquement plus. Et effectivement, là, de la mettre derrière lui, comme ça, pour annoncer, pour faire son discours de premier tour, ça veut tout dire. Ça veut dire, surprise, on mène la danse, voilà, maintenant, ce qu'est le nouveau Front Populaire, c'est moi et Rima Hassan. Et depuis le début, on vous a bien berné et maintenant, vous n'avez plus le choix. Parce que le RN, il est là. Donc, si vous votez pour le nouveau Front Populaire, vous votez pour ça et c'est assumé.
Mais c'est vrai que Glucksmann, il devait être content hier.
Ah ouais, mais enfin, à un moment, il va falloir que Glucksmann se clarifie.
Voilà.
Tu peux pas avoir le beurre.
Très bien, avec
l'argent
qui
Non, mais Glucksmann, c'est le beurre, l'argent du beurre, la fermière et le tabouret qui est en dessous. Donc à un moment, il va falloir qu'il choisisse. Tu veux pas tout avoir. Et
on ça, a des c'est amis qu'on hérite. Hein.
Tout sauf quelque chose qui est anodin. Ça a été programmé, préparé à l'avance. Et là où on a berné les personnes qui étaient focalisées sur la Palestine, etc., on en parle dans les européennes, ils n'en parlent plus juste après. Ils n'en parlent plus juste après. Ils font une union, ils n'en parlent plus. Les candidats et les filles n'en parlent plus. Et là, on revient dans le game. Et là où Perico, je pense, a raison, le Mélenchon n'a jamais eu pour ambition de prendre le pouvoir par les élections. Mélenchon, il s'en fout d'avoir 200 députés ou d'en avoir 70. Non, Mélenchon veut le chaos après le chaos. Et pour arriver après un bordel sans nom. Et là, il envoie ça.
C'est pas lui qui va le mener, ce bordel. Non. Tout le monde veut le dégager.
Ça s'appelle la révolution.
Il a bien dit qu'il était le patron. Sauf qu'au lieu de passer pour un chef de parti, il passe pour un gourou de secte. Voilà. Il est en train de transformer la France insoumise en secte, alors que c'est un parti politique qui défend aussi des causes qui sont respectables.
Regardez Garrido et Corbière, ils peuvent vous en parler savamment.
Ils essayent peut-être de le dégager, mais ils n'y arrivent pas. Et hier, je suis désolée de revenir là-dessus, la place de la République, c'était extrêmement choquant. c'était du drapeau palestinien et du drapeau algérien. C'était des slogans comme « Tout le monde déteste la police »,« Qui crée la harassera récolte l'intifada »,« Israël dégage ». C'était impressionnant. D'accord, mais le corps mais c'est des
pas,
militants.
C'était pas une énorme manif, c'est pas représentatif.
Il y avait du monde et c'est le corps militant de LFI qui, pour l'instant, n'a aucune envie de dégager Mélenchon. Et Mélenchon, aujourd'hui, représente le nouveau Front Populaire, il faut le dire. C'est, en tout cas, le citoyen moyen, l'électeur moyen, il pense à Mélenchon quand il pense au nouveau Front Populaire. Donc, c'est raté pour Glucksmann, effectivement, qui aurait bien voulu ramener vers lui, mais c'est complètement raté, là.
Mais je pense qu'il y a une partie de la gauche qui ne devait pas être très, très contente de voir Jean-Luc Mélenchon hier avec Rima Hassan et avec un Kéfier, parce que
ils ont essayé de temporiser
beaucoup. Tout d'un coup, ça remet ça sur le
débat. Mais à force de manger des couleuvres, ils vont avoir des problèmes de digestion. Il va falloir qu'ils se réveillent quand même.
Si je ne sais pas. Allez, on va terminer ce zapping avec une touche plus légère, une très, très jolie touche, incroyable, mais vrai. Hier, Kevin Vauclin a remporté la deuxième étape du Tour de France entre Cesenatico et Bologne après la victoire, la très belle victoire de Romain Bardet samedi. Eh bien, c'est la première fois depuis 1968 que deux tricolores triomphent sur les deux premières étapes de la Grande Boucle. On écoute tout de suite l'arrivée d'hier.
Kevin Vauclin qui se retourne, il peut se relever. Et oui, il peut faire signe au tifosi. Allez-y, applaudissez-moi. Il y a de la joie dans les cœurs. La Normandie est en fête. Kevin Vauclin va s'imposer. Levez les bras en Italie. Quel bonheur, quelle joie. Les Français sont en forme, en très grande forme. La victoire de Vauclin qui serre les points, qui passe la ligne. Victoire française une nouvelle fois. Victoire de Vauclin.
23 ans, Kevin Vauclin. Et c'est vrai qu'on ne parlait plus du tout du Tour. On parlait que des législatives. On n'attendait pas les Français. Et là, bim, deux victoires exceptionnelles en deux jours. Moi, je suis une dingue du Tour de France. Et ça me remplit de joie.
On peut même y dire trois, parce qu'en plus, il y a eu le maillot jaune.
Exactement, de Romain Bardet. Première fois de sa carrière pour son dernier Tour de France.
Première étape. Mmh. Et en plus, excusez du peu, en Italie.
Exactement.
Pays chauvin, s'il en est, ou quand c'est pas bon pour les Italiens, on interrompt les étapes parce qu'il y a trois flocons qui tombent. Hein. Ils savent le faire, les Italiens, dans l'organisation du Giro. On dévie le truc, les sportifs. Voilà, exactement. Devient chemin. Pas sur le Tour de France.
Moi, ah, franchement, si, on a déjà. Ah, bah, si, il y a des étapes du Tour de France qui ont été tronquées.
Oui,
il y a des étapes,
parce que les conditions étaient réelles, pas parce que c'était un Italien qui allait perdre. Hein. Donc, moi, je suis un fan absolu de cyclisme. Ouais. Et une petite pensée pour mon père qui regarde ça depuis des dizaines d'années et qui connaît ça par cœur en ce moment, et j'ai trouvé ça génial, c'est le retour des cyclistes français. Alors je ne suis pas sûr que ça dure pendant les trois semaines du Tour, mais c'est génial, en plus en Italie.
On retrouve justement Christophe Cessieux dans un instant sur RMC. Moi, j'en profite pour vous dire merci, parce que c'était ma dernière de la saison. Je vous retrouve dimanche soir pour la soirée électorale sur RMC avec Olivier Truchot, et puis après pour les JO à partir du 26 juillet. D'ici là, je vous laisse entre les mains expertes de Rémi Barré. Puis j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité toute l'année. Je remercie évidemment toute l'équipe d'Estelle, tous les chroniqueurs. Voilà, merci à vous, toutes les équipes qui travaillent chaque jour sur l'émission, les rédacteurs en chef, Bérangère Bouquillon, Paul Lassène, Mélanie Delaunay, la chef d'édition Anne-Laure Derevier, le Réal, Donatien Guittard, le chef du Standard, Thomas Camacho, à la direction, bien sûr, Pierre, notre stagiaire, qui a été absolument formidable, la régie, Pablo, Max, Flo, Kylian, Fabio, Ilan ou encore Nassim et tous les autres. Merci, merci beaucoup. C'est un bonheur de travailler tous les jours à vos côtés. Je vous laisse donc, à partir de demain, entre les mains de Rémi Barré. Et tout de suite, c'est l'intégral tour avec Christophe Cessieux, la troisième étape du Tour de France, Plaisance-Turin. C'est la plus longue étape du Tour de 130 km. Bonjour Christophe.
Bonjour Estelle, effectivement. 230 km et on n'est pas parti pour une journée trépidante aujourd'hui, il faut bien dire.
Faut se reposer.
Étape de transition, figure-toi qu'il n'y a aucune échappée depuis le départ tout à l'heure et que ça risque d'aller comme ça jusqu'à Turin. On n'est pas arrivé, je pense qu'on va louper le match ce soir, hein. On va pas pouvoir le voir s'il continue à ce rythme de sénateur. On espère une nouvelle victoire française, mais enfin aujourd'hui c'est plutôt pour les sprinteurs, Estelle. Hein.
Ouais. Moi j'ai mis une petite pièce sur Philippe Sen.
Ah bah oui, tu as raison. Ouais. Mais une grosse pièce un d'ailleurs, parce que sa cote doit pas être énorme. Hein, non plus. Hein.
Non, c'est pas énorme. Après, c'est une étape longue, effectivement. Aujourd'hui, on peut se dire que les organismes ont été énormément éprouvés par les deux premières étapes qui ont été absolument fantastiques. Deux victoires des Français, mais on peut penser aussi que les coureurs ont envie de mettre un petit peu la main sur le frein aujourd'hui.
Ouais, d'autant que demain, c'est le galibier quand même, hein, puisqu'on va passer les Alpes, on va revenir en France. France. Donc demain, il va falloir s'infuser le Galibier. Ce sera la première étape de haute montagne de ce Tour de France. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une étape de transition. Il faut bien de temps en temps reposer les coureurs et reposer les journalistes. Mais enfin, nous, on est quand même à l'antenne pendant 4 heures. Donc il va falloir qu'on trouve des choses à dire. Je ne sais pas ce qu'on va dire.
Bon,
on va
faire une petite sieste. C'est marrant, mais ça, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas pour vous. En tout cas, Christophe, vous êtes un tout petit peu plus vieux que moi. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir assisté à un début de tour aussi trépidant que celui-là, quand même.
Pour les Français, Estelle. Non, pour les Français, c'est vrai. 1968 pour les deux premières victoires. Il y avait aussi 1979, si on compte pas il y avait eu un prologue, mais ensuite les Français avaient gagné les deux premières étapes. C'était l'équipe de Cyril Guimard qui est à nos côtés, évidemment.
Bien sûr.
Ça lui rappelle ses jeunes années, tout ça. Mais c'est vrai qu'on s'est régalé. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire aussi bien? Certains pensent qu'ils peuvent aller décrocher jusqu'à 3-4 victoires. On verra. C'est encore long. Il reste 3 semaines encore du Tour de France.
Merci beaucoup, Christophe Cessieu. On vous retrouve tout de suite dans l'intégral tour pour suivre la troisième étape en direct du Tour de France entre Plaisance et Turin, 230 km. Et demain, ce sera Rémi Barré aux commandes d'Estelle Midi ou Grémy.
Bonnes vacances, Estelle.
Merci, Rémi. Oh, je reviens vite, je reviens dès dimanche.
Oui, c'est vrai.
Écoutez, profite. Ce sera court. Merci. Merci beaucoup. À demain dans Estelle Midi.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral tour.